Hello les amis, heureux de vous retrouver. Un sweat qui va. Ah oui, je l'aime ce sweat. En plus, je l'ai lavé. Non, attendez, je vous enlève le sommaire, sinon vous ne le voyez pas. Hop! Make journalism great again. Ah, je crois que j'ai perdu mon petit cordon là, tiens. Ah, c'est ça le cordon que j'ai trouvé par terre dans la salle à manger ce matin? Ah ouais. Putain, comment on remet ces trucs? Bon, bah, du coup, on voit mieux le. Parce que je suis allé voir les amis du Gorafi il y a quelques mois, semaines, mois maintenant. Très sympa. Et ils m'ont offert ce sweat. Make journalism great again. Après, c'est plus difficile à dire que MAGA. Ça fait quoi? MJGA. MJGA. Oh, ça pique le nez ce matin. Oh là, ouais, cette phrase hors contexte est très étrange. Qu'on parle du Venezuela, de la Colombie. Non, c'est le. C'est les petits. petits coups de froid. Pour enfiler le cordon, une épingle à nourrice à une extrémité, tu enfiles. C'est-à-dire. Une épingle à nourrice à une extrémité. C'est-à-dire. Je l'ai pas, je l'ai pas. Une épingle à nourrice, c'est le truc des. Que les punks se mettaient en boucle d'oreille, là. Comment tu fais ça? Je vois pas. Oui, l'extrémité du cordon, j'ai compris. Et après, tu fais quoi? Une fois que tu as attaché l'épingle à nourrice à l'extrémité du cordon, tu fais quoi? Tu accroches une épingle à nourrice sur un bout et tu passes le fil dans le trou. T'as eu Drakeos? Tu accroches une épingle à nourrice sur un bout, tu passes le fil dans le trou. Tu l'enfiles dans le trou du col. Moi, quand ça m'arrive, je demande à ma femme, j'ai pas mis mon conseil, me dit Hiro. Perso, j'enlève la ficelle, c'est plus simple, me dit Nyx. On reconnaît les garçons, hein. Comme l'épingle est rigide, c'est plus facile à faire glisser. Ah, merci, ok. D'accord. Oui, c'est moins mou. Ah, laissez-le moi, celui-là. Ça fait quelques jours que j'ai pas joué à Valo. Et un petit coup d'OP. Et je suis au fond du A là. Je prends ma ligne. Et regarde Sugar. Hop. Bim. J'ai même pas flashé. Hein. J'ai fait ça proprement. J'étais bien aligné. J'étais prêt. Ok, il est pingue la nourrice. Salut le crépuscule. La nuit va commencer sur ce stream. Ça, c'est un beau message. Voilà. C'est très intéressant les premiers messages. Tu sais, quelqu'un arrive dans une communauté et il écrit un premier message. C'est marqué. OBS te dit, c'est le message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Alors, les premiers messages qui sont totalement claqués au sol parfois, comme un il y a quelques secondes d'ailleurs là, headshot, t'as vu mon ami? Et puis il y a celui de Crépuscule qui est très beau. La nuit va commencer sur ce stream, j'espère que ça va être doux. Ouais. Et ben, je vais faire ça tout doucement pour toi. Très beau premier message, si tu peux me permettre, bravo. Merci Draft pour ce 14e mois. Merci Codis. Pour le wow, 50e mois, il faut que je prépare le badge des 60 mois. Il y a des gens qui vont arriver à 60 mois. 5 ans de sub. Il y a des gens qui vont faire ça. Et je n'ai pas le badge encore. Il faut que je m'en occupe. Accalmic, merci. Dorian le crépuscule. On a fait un beau raid hier. On a découvert une streameuse hier. Trop, trop chou. Trop shoot. Qui était sur LOL, je crois. Je crois, je crois. Trop sympa. Après le live God. Les préliminaires sont toujours de qualité dans ce chat. C'est vrai, hors taxe. C'est ce que je fais de mieux. Je pense que mes streams ne devraient être idéalement que de longs préliminaires, de longues introductions. Parce que je sais ce qui est le plus sympa. Mais bon. Depuis la salle de classe? Ah! Margot dit, coucou Étienne, je te regarde depuis ma salle de classe, de quoi se détendre au travail, je précise que je suis en pause. À l'heure de trou. Merci Étienne LB. Merci Samus. Merci à tous les deux. Merci Google35. Est-ce que c'est vrai, Palmitor, salut Palmitor. Est-ce que c'est vrai que tu te présentes à la présidentielle? Je sais pas trop. Je sais pas si c'est un gigantesque troll. Ou si je dois y aller. Je pense que ma vie. J'aime bien ma vie en vrai. J'aime bien la vie de vieux que je me suis construite. Ouais. J'ai aimé ma carrière de journaliste, j'ai aimé ce que j'ai fait en radio, j'ai aimé ce que j'ai fait en télé. J'aime encore plus ce que je fais sur Twitch depuis 5 ans. J'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire, une épouse incroyable. Deux enfants, deux petits garçons qui sont des cœurs, des anges de l'amour sur pattes. Qu'est-ce que, tu vois, à un moment, qu'est-ce que je vais aller tout niquer, quoi? En me lançant en politique. Dans ce monde d'ultra-violence. Salut, c'est Do, j'espère que la journée va bien se passer dans les bureaux. Donc voilà, voilà. Mais en vrai, c'est marrant, en vrai, l'idée est drôle. Tu risqueras de te faire enlever par hélicoptère. Ouais, après, je veux pas devenir une cible pour Trump aussi. Tu vois? T'es là, t'es tranquille. T'es tranquille à la maison, tu vois, t'es avec ton épouse. Tu chill, petite soirée, Netflix, tout. Puis à un moment, t'as des mecs qui débarquent en hélicoptère et qui vous emmènent tous les deux, quoi. Pour vous juger dans un autre pays, quoi. Qui vous explique que vous êtes un trafiquant de drogue, quoi. Tu vois, donc, doucement, la présidentielle. Pas sûr que c'est une bonne idée, moi. Hein. Après, tu te dis, ben, l'Europe va pousser un coup de gueule, tu vois. Tu te dis, les partenaires. On survêt Nike, quoi. Et les partenaires européens vont pousser un coup de gueule, tu vois. Vont dire, ah non, vont taper du poing sur la table, tu vois. Et ben non, ils vont rien dire, ils vont se coucher, tu vois. Donc, il y a ça aussi, hein. Il risque de se moquer de toi sur Twitter. Ouais, enfin, bon, vu son état de santé et son âge, d'ici à ce que j'arrive à la présidentielle, il y a forte chance qu'il soit mort, quoi, ou plus tout à fait étanche. Donc, je pense que la capacité de moquerie de Donald Trump sur Samuel Etienne, il va falloir qu'il prenne des vitamines, quand même. Hein. Parce que, bon, je suis pas un paillasson, moi, non plus, hein. Lusaxel, journée de merde. Est-ce qu'on peut envoyer de la force à Lusaxel dans le chat qui a écrit littéralement, il est 9h30 et j'ai déjà enchaîné un nombre de merdes incroyable. 9h30, t'as déjà eu toutes ces avanies, tous ces problèmes, tous ces soucis. Pop, pop, pop. Voilà, il y a le crépuscule qui nous quitte gentiment, c'est très très beau. Nous avons un ou une poète dans le chat et je trouve ça trop beau. Le crépuscule qui écrit sur ce, les amis, mes paupières se ferment, les perséides éclatent dans ma tête. Que du love à tous, je m'endors ici et maintenant. Mes amis. C'est beau, hein? Est-il possible de ne pas commencer la revue de presse avant 9h45? Je pars en pause, me dit Firmush. Quelle heure il est? Quart d'heure, il y a moyen de traîner jusque-là, ouais. Samuel, tu pourrais un jour faire une vidéo où tu expliques comment se comporter face caméra avec des années d'expérience. J'imagine que tu as plein de conseils à donner sur le relationnel. Ah, Boubou la zone. Je ne suis pas quelqu'un qui donne des conseils, moi. C'est tellement subjectif. Tu vois ce que je veux dire? Le côté professoral, le côté je sais, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. En fait, j'ai du mal avec cette démarche. Et je saurais te dire ce que je fais, moi, face à une caméra. Mais ce qu'il faut faire, tu vois? Et en fait, c'est pas trop un truc. Comment dire? Soit toi, en vrai. Toi. Soit toi. De toute façon, les gens aujourd'hui. On met de côté les médias traditionnels qui sont en train de mourir doucement. Mais sur les nouvelles plateformes qui nous permettent de devenir chacun un média et de parler littéralement à la terre entière, ce que les gens en face vont chercher, c'est une singularité, c'est quelque chose qu'ils ne vont pas trouver ailleurs. Tu vois et comme le dit Ayoub, ça dépend des gens aussi, le comportement face à une caméra, il n'y a pas une vérité. Le public est divers et trouve une immense diversité qu'il n'avait pas aujourd'hui, hier, dans justement la proposition médiatique, dans la multiplication des chaînes, qu'elles soient Twitch, YouTube, TikTok, Insta, etc. quoi. Donc soit toi, parce que cette singularité, ce partage de passion, ce divertissement que tu vas provoquer, ces sourires ou ces réflexions qui vont faire que les gens vont aimer te retrouver, quoi. Et ça va finir avec achète ma formation à 997 €. Et on dit la raison. D'ailleurs, point d'exclamation formation dans le chat. Alors, je ne voulais pas vous en parler. Point d'exclamation formation. Je propose effectivement une formation. Alors que ça vient de sortir. Hein. Je l'avais pas encore. Annoncé. Donc c'est un scoop de Twitcher. Voilà. Tu es jeune, tu es vieux, peu importe. Hein. Ton argent m'intéresse. Tu es jeune, tu es vieux. Tu en as marre de ta vie. Hein, de ton occupation actuelle, quelle qu'elle soit. Je sais pas, moi, banquier, cariste, président des États-Unis, et puis les Américains sont de moins en moins dupes de ton personnage et ta cote de popularité et en chute libre malgré l'hyperactivité internationale dans l'agressivité dont tu témoignes. Bref, tu veux changer de vie et tu veux devenir Twitcher. Eh bien, pour l'exclamation formation, et en l'espace de quelques modules, très simples, une douzaine d'une heure à chaque fois, eh bien, je te garantis, alors la formation n'est pas remboursée, hein, mais je te garantis, c'est une promesse d'ami, que à la fin de ces 12 sessions, tu seras un Twitcher et en capacité de créer et peut-être d'en vivre, quoi. Voilà, pour la modique somme de combien tu disais? Bah, 997 euros. Voilà. Le module. Par contre, il y en a 10. Il ne faut pas déconner. Voilà. Est-ce qu'on sera garanti de devenir partenaire Twitch? Alors, non, parce que c'est-à-dire que moi, ce que je promets, c'est une formation. Après, ce que tu vas en faire, toi, je ne peux pas le garantir. Hein, voilà. Mais oui, effectivement, je propose cette formation de Twitcher. Je prends les chèques déjeuner, oui. Finlandia Clip. Imagine, ça part premier degré. Imagine, ça part premier degré sur les réseaux et premier degré, il y a des gens qui achètent ce que je viens de dire. C'est-à-dire, ah, le mec, il dit Twitcher et tout. De toute façon, je vous avais dit que ce mec était une fraude. Depuis le début, je vous dis qu'il est problématique. C'est tellement, ce serait tellement bon, bordel. Non, ah non, Clamakin. Non, pas 999 euros hors taxes pour 12 modules. Non, 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 non. Ah non, soyons précis, on est dans un cadre ici informatif et carré. 997 euros. Le module. Pas les 12 modules. Il y en a 10. Donc, pour ceux qui aiment les bons comptes font les bons amis, c'est 9 970 euros. La formation. Moins de 10K donc. Une aubaine. Une aubaine. Le module. Oui, le CPF, ça prend ça. Ça prend. Le sommeil, c'est dur à obtenir. C'est quand que Valorant finit sa maintenance? Quelqu'un sait, dit le crépuscule qui nous a dit il y a 2 secondes qu'il, elle, allait dormir. C'est trop mignon. On peut payer en 600 fois sans frais? Ouais, ça va, les crevards. Ah, pas non. Alors, ok. Alors, Luzaxel nous raconte sa journée de merde qui a commencé très très tôt, puisqu'à 9h30, tout s'est enchaîné. C'est parti. 2 points. Ouvrez les guillemets. En résumé, ma fille me dégueule dessus juste avant que je ne parte. Ça, c'est pas un accident. Ça, c'est pas un problème. Ça n'est pas un souci. C'est de l'amour. Un enfant en bas âge, a priori, parce que si ta fille a 24 ans et qu'elle te dégueule dessus. C'est pas parce que c'est un nourrisson, c'est parce que elle est bourrée. Et effectivement, tôt le matin comme ça n'est pas une bonne nouvelle. Mais si ta fille est un bébé, une petite personne, en fait, ça c'est de l'amour, hein, ça c'est de l'amour. Ça c'est beau. Ça veut dire que déjà tu as un enfant à la maison qui vomit. En soi, c'est formidable. Sauf si cette personne a effectivement plus de 15 ans. Accident de personne sur ma ligne, donc ça c'est triste. Direction autre gare, collée serrée dans le bus à 1 heure. Bon, voilà, bienvenue à la grippe et au Covid. Train qui ne dessert pas ma gare d'arrivée, mais je peux quand même le prendre. Ok, train bondé, Ah oui, signal d'alarme déclenché. Bah oui. Oui, sinon c'est pas drôle. J'avoue. Oui. Signal d'alarme déclenché. Terminus, alors je suis même pas parti de la gare. Autre train qui arrive en gare, pas pu monter dedans, trop bondé. Autre train, changement de quai dernière seconde. Oui, c'est quand même un début de journée de merde. Alors, pour atténuer tout ça. Pense aux autres personnes dans le wagon avec toi, hein, enfin des différents wagons parce qu'il y a eu plusieurs trains, hein, qui sentent quelqu'un qui est dans le wagon pue la gerbe. C'est-à-dire que moi je rêve d'avoir quelqu'un dans le chat qui va témoigner du même début de journée, les trains annulés, plein de gens dans les wagons, et qui rajoute, et en plus il y a quelqu'un, je sais pas qui pue la gerbe. Hein. C'est toi, Luzaxel. Parce que ta fille t'a vomi dessus et tu n'as pas eu le temps de te changer. Ou si peu. Voilà. Et donc y a pire que toi. En début de journée, il y a les gens qui sont avec toi. Eh oui. Voilà. Je suis dans le wagon, je confirme. Voilà, vous le savez. Bah oui, vous êtes très nombreux. Waouh, vous êtes très nombreux donc. Voilà. Salut, j'ai une question. Oh my geez. Vous savez, quand. Il faut que je m'en occupe, je ne m'en suis pas occupé, mais hein, moi je rêve d'avoir des locaux un peu plus grands parce que j'ai envie de faire des choses dedans, enfin des choses professionnelles, j'entends. Je ne veux pas recevoir des gens. Je ne veux pas recevoir des. Enfin bref, pour travailler quoi. Donc des locaux plus grands. Et parmi les projets qu'on a évoqués, moi qui ai beaucoup aimé faire du sport et courir, j'ai vraiment envie de m'installer un setup où, avec un tapis de course pour faire des petits streams chill l'après-midi où je suis en petite foulée tranquillou, torse poil un petit peu pour les audiences, pour les subs. Et on parle de tout et de rien. Voilà. Après, il faut que je trouve le local. Voilà. Et je répondrai à des questions comme celle de Omagiz. Salut, j'ai une question. J'ai 26 ans, parfois j'ai le sentiment de n'avoir pas vécu grand-chose et il me reste peu d'années. Comment ça? Bah 26 ans. Attends, me dis pas que t'as un souci de santé gravissime quand même, parce que là c'est, j'arrête de déconner. Quand tu dis il me reste peu d'années, c'est parce que tu penses avoir une espérance de vie normale, mais tu trouves que c'est pas assez, ce qui est plutôt positif en soi, ou t'as un souci de santé? Parce que là, si tu as une espérance de vie normale, ta vie ne fait que commencer. Moi, à 26 ans, je n'avais rien fait de ma vie. Hein. 26 ans, je sortais à peine des bars, moi. 26 ans, à peine j'avais commencé à décider d'arrêter de faire la tournée des bars, si tu veux. Donc, je n'avais littéralement rien fait de ma vie. Ça a commencé à peu près là, quoi. Donc voilà. Donc non, tu peux t'inventer, tu peux. Tu peux t'inventer une vie à n'importe quel âge et beaucoup plus tard que ça. Hein. Voilà, Candy Batch, à 40 ans, je me suis trouvé une passion par exemple. Ou alors c'est une passion par une ex ou un ex, Candy Batch. C'est par exemple ou c'est un ex ou une ex qui t'a trouvé ta passion? Ou alors passion pour un ex? Parce que ça, c'est dangereux, ça. Remettre le couvert. Jamais bon, ça. Sugar, j'en étais sûr, Sugar. Je confirme, dit Sugar. Je savais, on en a déjà parlé, je savais. Voilà, donc, non, on va avoir 26 ans, attends. Et on, non seulement on peut s'inventer à n'importe quel âge, mais on peut se réinventer en permanence. Vis ma vie. C'est même pas vie ma vie de merde, j'ai des commentaires, je me régale dans le chat. Pff, Twitch, le gaming, l'information, sont. En fait, on s'en bat un peu les couilles. Ce qui est intéressant, c'est vos histoires. Regarde, Artiboon. Perso, j'ai démarré la journée en claquant la porte avec mes clés à l'intérieur. Classique. Qui n'a pas fait ça? Perso, j'ai démarré la journée en claquant la porte avec mes clés à l'intérieur. J'ai dû demander une radio à ma voisine de 80 ans pour ouvrir la porte. La voisine a ouvert. La voisine a donné une radio de mammographie, précise Artiboon, qui enchaîne. J'ai donc passé 20 minutes à manipuler une mammographie dans la porte d'entrée. Eh bien, c'est une très belle histoire. De l'âme. Merci Samuel pour le rappel quotidien de ne jamais remettre les couverts. Ah. Alors, si je dois servir à quelque chose, on se bat monde. Si je ne dois servir qu'à une seule chose. Merci un homme lent. Merci Mumured. Merci Djouboul 13. Merci Galmendra. Merci Étienne. Si je ne dois servir qu'à une seule chose en ce bas monde, croyez-moi, ne remettez jamais le couvert avec un ex ou une ex. La vie est ailleurs. Hein? Ah, mon ex me manque, Jules. Mais non, Jules, c'est que c'était pas la bonne. C'est une évidence. Si elle est partie ou si tu es parti, c'est que c'était pas la bonne. On est combien de milliards d'habitants sur cette terre, sur cette planète? Énorme, ma copine est repartie avec son ex. On est vraiment sur des tranches de vie de caca ce matin, là, je kiffe, hein. Renvoie ce tir au bordel. Ma copine est repartie avec son ex. Eh bien, elle va connaître le malheur. Et on ne va pas se réjouir du malheur des autres, mais elle va connaître le malheur. Hein? Car c'était la pire idée du siècle. Et j'espère que tu ne te remettras pas avec cette désormais ex repartie avec son ex. S'il te plaît. Voilà. Stripper. CQFD. Voilà. Mon cousin s'est remarié avec son ex. Ok. L'histoire commence bien. Vous allez me dire, Samuel, tu vois, il faut croire en l'amour. Il faut croire. Hein. Merci, Duxter. Merci, Cherge. Tu vas bien, Cherge. J'adore Cherge. Hein. Donc là, vous allez me dire, ben, vous voyez, Samuel, tu te trompes. Hein. Où es-tu, stripper? Mon cousin s'est remarié avec son ex. Suite de la phrase. Et a redivorcé depuis. Jamais. Jamais. Jamais, les amis. Pire idée. Pire idée. Voilà, Diana. Déjà remis le couvert, je confirme, c'est une erreur. Hein. Voilà, Witchblade. Les ex, c'est comme de la daube. La daube, c'est le plat en sauce, là. Hein. C'est pas meilleur réchauffé, mais oui, bien sûr. Mon ex, alors ça c'est plus compliqué, cryptique, Satan, parce que là je suis à mon premier café. Mon ex m'a trompé avec son ex. Donc elle a remis le couvert avec son ex alors qu'elle était toujours avec toi. Donc avec, elle est désormais ton ex et tu es son ex. Elle est repartie avec son ex. Chute de l'histoire et aux dernières nouvelles, ils sont plus ensemble. C'est QFD. C'est QFD. Mon fils d'un an fait des terreurs nocturnes à conseil. McBatom, nous, ce qu'on a fait, c'est quand on a fait les terreurs nocturnes chez les petits, là, c'est classique, hein, c'est très fréquent. Je ne suis pas médecin, attention. Hein. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a repris avec nous dans la chambre. Voilà. Voilà, bah, c'est ce que dit Marine aussi. Dodo avec toi. Ouais, Marine, qui est comme moi, qui a de la famille. Moi, mon petit dernier, à un moment, il s'est mis à faire des cauchemars. Alors, terreur nocturne, cauchemar, c'est pas tout à fait la même chose, mais on l'a repris avec nous. Et ça s'est arrêté tout de suite. Voilà. Bon, résultat, il est jamais reparti. Hein. Donc, ça fait un moment déjà. Mais moi, ça me va. Je trouve ça très apaisant que le petit soit avec nous quoi. Voilà. Et puis du coup au bout de quelques temps le grand bon qui a pas 35 ans hein, qui a 9 ans il a dit bah ouais bah, moi je suis tout seul aussi dans ma chambre donc est-ce que moi aussi je peux venir? Voilà. On a mis deux matelas dans la chambre à côté de notre lit et on dort à 4 dans la même pièce. C'est bien la peine d'avoir pris un emprunt immobilier de psychopathe pour que tout le monde ait sa chambre.
À quoi ça sert que Ducrot se décarcasse?
Enfin, papa, en l'occurrence. Parce que Ducrot n'y est pour rien, quoi. À quoi ça sert? Tu te saignes aux quatre veines. Hein. Tu vas passer ta vie à rembourser un emprunt immobilier pour que chacun ait un peu d'espace. Et on est à quatre dans la chambre. Et ça fait un moment que ça dure. Allez. Mais j'adore. Je n'ai jamais aussi bien dormi. Que depuis que les enfants sont dans la chambre. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rentres, moi je rentre un peu tard le soir, souvent minuit passé, un petit peu de Valo, un petit peu de God of War et autres, ou de Skyrim, voilà. Et en fait, alors d'abord, un peu de Tetris. Parce que souvent, ils s'endorment quand même dans le lit. Voilà. Alors moi souvent quand les trois donc mon amoureuse les deux petits étaient dans le lit souvent bah, j'arrivais je voyais ça c'était trop mignon je dérange pas et je vais dormir ailleurs donc voilà donc je vais dormir ou dans une chambre d'enfant donc du coup j'ai bien fait d'acheter quand même ou dans la salle à manger sur le canapé et puis en fait Hélène me dit ah mais non fais pas ça parce que les enfants sont tristes parce qu'ils se réveillent le matin puis ils voient que t'es pas là et tout okay. Donc quand je rentre c'était triste c'est-à-dire que je déménage tout le monde. Voilà. Alors parfois il y a un seul, parfois il y en a deux, et donc c'est trop chaud, je les prends dans mes bras tout doucement, et je les mets dans leur lit, petite couverture et tout quoi. Bref, tout ça pour vous dire que depuis qu'ils sont dans la chambre, je n'ai jamais aussi bien dormi. C'est très apaisant de sentir la famille là. Moi je suis très famille, j'ai toujours été très famille. J'ai beaucoup de chance. Et donc d'entendre ces petits bonshommes là qui dorment, qui respirent, qui sont apaisés, qui du coup dorment très bien eux aussi, bah moi ça m'apaise et ça m'endort aussi. Voilà, et c'est j'ai jamais aussi bien dormi. Et tout le monde dort très bien. Ouais. Mais il y a des sociétés d'ailleurs, enfin, où c'est assez courant ça, je pense. Voilà. Donc c'est trop bien. C'est trop bien. Et je n'ai qu'une peur, c'est qu'il se barre. Je n'ai qu'une peur, c'est qu'il s'en aille. Hein, je n'ai qu'une peur que c'est qu'un matin, le grand ou le petit ou les deux disent « Ah bah c'est bon, je me barre. » Voilà. Bah, ça arrivera, hein, ça arrivera. Je pense que vers 35-40 ans, je pense qu'ils vont vouloir prendre leur indépendance. Tu vois. Donc, parce que c'est super. C'est vraiment super. Voilà, le yaourt nature dit, dans les pays nordiques, c'est très fréquent, les enfants qui dorment avec les parents, en Asie aussi, on est un peu lobotomisé à croire que c'est malsain. Moi, je trouve ça formidable. Moi, je trouve ça formidable. Ou ramener leur conjoint? Ah oui, non, bah non. Alors non. Alors non. Alors non, hein, grand ours. Hein. Ou ramener leur conjoint, non, c'est-à-dire que non. C'est-à-dire que non. C'est-à-dire, là, on est quatre. Si à un moment, on devient... Alors, un, deux, attends, quatre. Alors, ça fait quatre. Alors, si chacun en joue, ça fait six. Six. Si on passe à six. Avec les deux couples, là. Au pied du lit. À un moment, tu te réveilles dans un demi-sommeil, t'entends du bruit. Et tu vois ton petit ou ton grand. Enfin bon, peu importe. Je ne vais pas développer cette idée. Non, je dis non. Enfin, ils ont 5 et 9 ans, donc je pense normalement, c'est pas tout de suite, quoi. Donc non, ça non, on mettra un holà. Oui, on va parler de Trump après, mais enfin bon, parlons de choses un peu sympas. Il y aura le ras-le-bol de l'autre fou là. Hein, mais je vais vous en parler, bien sûr. Bien sûr, je tiens, vous voulez le sommaire? Et hop, on va parler de ça. Ouais, vite fait. Un pré-sommaire, là, regardez. Venezuela. Est-ce qu'il n'y avait pas une taupe au Venezuela? Oui. Je spoil, oui. Hein. Il s'est pris un gros couteau dans le dos, le Nicolas Maduro, là. Peut-être même de la vice-présidente qui est arrivée au pouvoir, là. Venezuela, la fausse transition. Oui, pour ceux qui ont écrit dans le chat ces derniers jours, ouais, mais pourquoi on se réjouit pas? C'est la fin d'un dictateur et tout. C'est top pour les Vénézuéliens. Bon, bah, en fait, je pense qu'a priori, il semblerait qu'il n'y aura aucun changement au niveau du régime. Ils ont juste changé le numéro 1. Mais ce qui risque de se passer, c'est que le régime, le même, hein, Chavez, va passer un deal avec Trump sur le pétrole. Et ceux qui vont bien se faire avoir, ce sont justement les Vénézuéliens. Trump à l'assaut du Groenland, parce qu'il tient pas en place, le gars. Donc maintenant, c'est le Groenland. Après le sud, le nord. USA, la stratégie Trump questionnée, parce que contrairement à ce qu'on pense, aux États-Unis, il y a énormément de gens qui disent mais il fait quoi le gars là? Mais il est fada? Hein? L'Europe impuissante, parce que pff, les Européens, je parle de dirigeants, c'est huit. C'est oula! Ce n'est pas bien! Voilà, donc là, ça c'est vrai, ça fait beaucoup peur à Trump. Et puis un truc un peu mignon sur comment les ados s'emparent de ChatGPT. Voilà, pour ça aérer un peu la tête. Voilà. C'est un mini sommaire, hein, je vous ai pas fait un vrai sommaire là. C'était juste pour vous dire qu'on va être sérieux aussi. Ouais. Heureusement qu'il y a Trump. Hein. Pour l'actu, hein, parce que là en ce moment, attendez, s'il fallait. Moi, il y a un truc dont je vous protège en ce moment. Il y a un truc dont je vous protège en ce moment. Hein. S'il fallait que j'axe cette revue de presse autour de l'actualité en France en ce moment, autour du budget, enfin, littéralement le même débat depuis des mois en mode ah, voilà ce qui pourrait y avoir dans le budget, sauf qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas si ça va être voté, et puis en fait, l'Assemblée a fait ça, et ça a été détricoté par le Sénat, et du coup ça va repartir en commission mixte paritaire, et puis il y a eu une loi spéciale, et on reprend tout à zéro, sauf qu'en fait, ouais, je vous protège de ça. Hein. Je vous protège de ça, moi. Je vous en parlerai quand il y aura un budget. Hein. Oh là là, heureusement qu'il y a Trump. Merci. Merci, Donald. Thank you, Donald. If you're watching la matinée, Étienne. Heureusement qu'il est là. Je ne sais pas de quoi je vous parlerai. Merci, Donald. On va, oui, on va le regretter. Hein. Vous verrez, Nix a raison. On va le regretter. Vous verrez qu'on va le regretter. Vous verrez que quand le fou du bus aura quitté Washington, un jour, on va le regretter, hein, parce que c'est quand même beaucoup de contenu. Hein.
Ah,
Luz Axel, merci. Je vais lancer cette revue de presse. Hein, c'est 34 minutes d'intro. En parlant du Groenland, hier soir, j'ai testé la méthode pingouin anti-mitant pour le plein de carburant. Pour un, hein, quoi. Voilà. Et j'avais l'air bien con, mais je suis pas tombé. Je vous rappelle. Hein, la méthode pour ne pas glisser en ces temps de frimas, de verglas, de neige. Pour ceux qui n'étaient pas hier, je vous refais. C'était un conseil dans le Parisien. Ok. Vous ne voulez pas glisser. Je pousse la chaîne. Ne faites pas ça chez vous. Faites ça dehors. Chez vous, votre famille va vous jeter des cailloux. Pour ne pas glisser. Hein. Ce sont des conseils très sérieux donnés hier par le Parisien. Ok. Pour ne pas glisser sur les trottoirs verglacés. Ok. Le tronc légèrement incliné. Comme ça. Légèrement. On abaisse le centre de gravité. Ok. Les bras écartés. On ne met pas les. On ne met pas les mains dans les poches. Hein. Hein. J'ai perdu mes écouteurs. Les bras écartés. Pour l'équilibre. Ok. Donc légèrement incliné. Les jambes écartées. Les jambes écartées. On abaisse le centre de gravité. Les pieds en V. Les pieds en V. Voilà. Et là, vous êtes imbougeable. Là, vous êtes imbougeable. Voilà. Là, vous êtes imbougeable. Voilà. Là, le centre de gravité est là. Vous êtes souple. Vous êtes flexible. Vous êtes sur vos appuis. Là, il ne peut rien vous arriver. Là. Voilà. C'est pas compliqué, hein. Alors, il faut oublier le style, il faut oublier l'élégance. À un moment, il faut viser l'efficacité. À un moment, quelle est la priorité? Le style, l'élégance, hein, le candiraton, hein, le regard des autres, ou le fait que vous allez rentrer à la maison avec un coccyx en bon état. Ah. Alors. Ma Juliette, 11 ans, il est content de sa bêtise. Ah, Juliette, 11 ans. On n'est pas sur de la bêtise, là. On est sur des conseils de préservation de l'intégrité physique d'une communauté. Hein. Chaîne de qualité. Merci, Crompy Dobby. Merci, Reine DNG. Merci, Rocktali. Ouais, bon, on va peut-être bosser un peu, là. Parce que, bon, c'est bien beau de faire rire les enfants, mais il va falloir y aller. Et on se la raconte. Pendant que les Parisiens apprennent à marcher sur la neige, nous on ferait des freins à main dans les cols enneigés. Ah, allez, les montagnards, là. Pff, 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 pff. Allez, Sam, fais ton taf. Ouais, bah, il faut bosser, il faut y aller. Bon, on y va ? J'ai envie de bosser, moi. Alors, attends, c'est où le sommaire de Boubou? On y va? Let's go, la revue de presse. Sommaire? Allez, go. Ça va, 37 minutes d'intro, hein. La semaine prochaine. Pas ce vendredi, le vendredi d'après. On sera en direct du Grand Palais. Pour un stream IRL. Pour les 200 ans du Figaro. Pourquoi je vous dis ça? Dans quel rapport est-ce que je viens de dire? Vendredi en 8, voilà. Pourquoi je dis ça? Je sais plus pourquoi j'avais. Ça s'enchaînait avec ce que je venais de dire. Ouais, 200 ans du Figaro. Je sais plus pourquoi. Pourquoi je vous parle de ça? Je sais plus. Ah oui! Parce que, donc, alors, 8 invités. 8 invités. 8 invités du Figaro. Pour parler de journalisme, de médias, de l'information aujourd'hui, de l'histoire du journal. Voilà. 8 invités. Un invité au début, un invité à la fin, et 3 couples d'invités. 6 et 2, 8. La production, c'est deux cadreurs, un ingé son, Joe qui chapeaute tout ça. Attends, deux cadreurs, un ingé son, Joe qui chapeaute tout ça. Je crois que Joe a pris une assistante, je crois. Et je crois qu'il y a une autre personne qui vient de nous aider. On est sept. La production Samuel Etienne, sept personnes, huit invités. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que, au Figaro, ils me disent, bon bah voilà, on vous a fait un petit conducteur, ça va être sympa et tout. On va faire ça en une heure. J'ai un Teams avec eux hier. J'aurais dit, les gars, une heure, c'est bonjour sur Twitch. Allez, 39 minutes là. Je dis, non. Donc, j'ai obtenu 2 heures. 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures 15. 2 heures, 2 heures 15. Une heure, je leur ai dit, non, les gars, une heure sur Twitch, c'est bonjour. Voilà, donc ça va être super sympa. Non, pas 2h30, finalement 3h, parce qu'il faut qu'il libère le Grand Palais à 17h. Exactement, culotte courte. C'est une OP avec le Figaro. Exactement, c'est pour les 200 ans du journal. Ah bah attends, j'ai une prod de cette personne. T'es gentil, hein. Et l'autre. Merci Lilise. Au Grand Palais, sur la patinoire, il y a une patinoire au Grand Palais, c'est vrai? Non, ça va être super. Vendredi en 8, vendredi pas là, mais de la semaine prochaine. Ce sera vers 14h. Bon, ça va être sympa. Et puis ça nous permettra de parler de journalisme aussi. Et puis, dans ces eaux-là aussi, avant, après, je ne sais plus, je serai, ce sera le, si, ce sera la veille. La veille, je serai en direct dans notre émission MVP le jeudi, exceptionnellement et pas le mercredi, le jeudi après-midi, 14h dans ces eaux-là, en direct de Média en scène pour un MVP spécial, journalisme, métier des médias et tout. Ouais. Donc ça sera une semaine où on a beaucoup parlé d'informations. C'est pas mal ça en vrai. C'est pas mal. Ça se réveille. Bon, on y va ou quoi? Parce que vous, là, ça discute, hein. Eh, vous traînez, hein. Merci, même j'étais gentil. Hein, ça, vous êtes bavard ce matin. Hein. À aucun moment je peux partir sur l'info. Hein. Hein, ouais, shop officiel de Gorafi, ouais. Jérémy. À aucun moment. Hein, moi j'essaie depuis. Ça fait presque une heure que j'essaie de vous parler d'actualité, des malheurs du monde, de Trump, du Groenland, du Venezuela, tout ça. Et vous êtes là à parler, à discuter. Oui, hors taxe, c'est le côté plaisant des préliminaires, mais quand même. Ça papote. Oui, bah oui, Néo, désolé, ça m'a anticipé. Oui, excusez-vous, oui. À faire la marche du pingouin, là. Hein? Alors que... Hein? Bon, alors. C'est fou, ça. Quand même. Vous pourriez faire un effort, quand même. Coucou, tu essayes d'apporter un peu de joie dans ce monde dirigé par des fous consanguins. Putain, Sism Lanner, si c'est ma mission sur Terre, je l'adore, hein, si c'est ça. On y va? Allez, c'est parti. Let's go, je vous mets dessus. On a tout. Et j'envoie la revue de presse. Bonjour à tous. Bienvenue dans la matinée, Étienne. Bienvenue dans la revue de presse sur Twitch. C'est tous les matins sur la chaîne de Samuel Étienne. Le mec parle de lui, la troisième personne, c'est normal, il est vieux. Depuis 5 ans, tous les matins, du lundi au vendredi, et même parfois le samedi et le dimanche maintenant, la matinée Étienne, c'est en live sur Twitch le matin, 9h, midi, 10h, 13h, dans ces eaux-là. C'est en replay sur YouTube à J+1, c'est en replay en podcast depuis la rentrée, tous les jours à partir de 15-16h. Vous avez la revue de presse en podcast. Sur toutes les plateformes de podcast, et j'en suis très content. Samedi, il y a même une revue de presse des bonnes nouvelles l'après-midi. Voilà, le deuxième numéro de cette revue de presse des bonnes nouvelles samedi prochain. Le problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas trop de bonnes nouvelles. C'est pas grave. Alors, je vous fais un petit sommaire pour commencer. Hein, qu'est-ce qu'on a dans l'actualité aujourd'hui? Le petit sommaire en quelques minutes pour vous dire ce qu'on a dans l'actu pour ceux qui ne pourront pas rester 2 ou 3 heures avec moi. Le Venezuela. Nicolas Maduro capturé, kidnappé par l'armée américaine. L'info, vous l'avez. Voilà, ça a suscité des espoirs pour certains. en disant mais c'est peut-être un espoir pour les Vénézuéliens, les Vénézuéliennes, enfin l'avènement peut-être d'un régime démocratique, puisque on kidnappe un autocrate, soi-disant élu démocratiquement, qui est en fait un peu un dictateur. Voilà. Puis en fait, on est en train de se rendre compte, et on va se rendre compte ce matin, que sans doute rien ne va changer, en tout cas à court terme au Venezuela, puisque le régime en place va rester en place. Ils ont juste changé les visages. Un deal a peut-être été passé avec les États-Unis, peut-être sur la question du pétrole, et on est en train de se rendre compte que peut-être que Maduro a été lâché de l'intérieur. D'où cette histoire de taupe dans cet article du Parisien. Il y a forcément une taupe. Après la capture par l'armée américaine du président Maduro samedi, en plein cœur de Caracas, la piste d'une trahison dans son entourage, peut-être au plus haut de l'État vénézuélien, gagne du terrain. Voilà. Donc, article dans le Parisien sur cette histoire de taupe. Hein, c'est ce que dit Le Monde également. Hein. Regardez, état d'urgence et fausse transition. Un calme précaire, traversée de tensions règne dans le pays depuis l'enlèvement de Nicolas Maduro par les États-Unis. Les Vénézuéliens osent à peine sortir de chez eux. Le régime en place est en place. Il n'y a eu aucun changement pour l'instant. Hein. D'autant que Trump a dit très clairement que non, la figure de proue de l'opposition vénézuélienne, le prix Nobel de la paix, non, c'est pas elle qu'il fallait. Les élections, c'est pas ce qu'il y avait de plus urgent. Voilà. Mais voilà. Et Jota Viani écrit dans le chat, mais quoi? Trump voulait juste le pétrole et pas rétablir la démocratie, choc barre. Bon, après, il a jamais dit qu'il voulait rétablir la démocratie. Au moins, il est honnête. Hein. À aucun moment, il a dit, mais moi, je viens rétablir la démocratie au Venezuela. Par contre, pour le pétrole, ça, il l'a dit assez clairement aussi, il l'a pas caché. Donc, article du Monde là-dessus. Alors, Venezuela, ça s'est fait. Et maintenant, le Groenland. Hein. C'est la une de l'humanité, avec ce... Attendez, c'est Air Force One, ça? Ou c'est son... En une de l'UMA, pour ceux qui nous écoutent en podcast, il y a un grand avion, voilà, sur une piste d'atterrissage. Et c'est marqué Trump en gros dessus. C'est Air Force. Ah, c'est son avion perso. D'accord. Okay. Donc il a son avion et il a écrit son nom dessus. Trump, c'est ça? C'est quoi? C'est si le père, c'est ça? C'est si l'égare pour le retrouver? C'est ça? C'est pratique, ça. Ok. Donc, et y a ce gros avion. Et le titre de l'UMA, c'est À l'assaut du Groenland. Voilà. Donald Trump multiplie les menaces sur l'île Arctique, riche en ressources. Les Européens s'en tiennent à la déclaration de principe. Une éventuelle annexion militaire par les États-Unis signerait la mise à mort de l'OTAN. Après le Venezuela, l'ultimatum au Groenland, donc dossier dans l'UMA sur la convoitise trumpienne sur le Groenland, comment, pourquoi, hein. Et puis, toujours Trump, pour ceux qui penseraient que les Américains, les Américaines sont derrière le président Trump comme un seul homme, eh bien, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, il y a énormément de questions aux États-Unis, dans l'opinion publique, dans la population, dans les médias, chez les élus, démocrates bien sûr, mais même certains républicains, sur ce que Trump est en train de faire. La stratégie impérialiste de Trump en question, c'est le plus gros dossier du monde. J'ai pas mis le timecode, tu m'étonnes, on est dans le sommaire, c'est pour ça. Hein. Depuis son arrivée à la Maison Blanche, le président américain multiplie les actions militaires et les coups de force à travers le monde. Hein, je crois qu'il est en train de rentrer dans l'histoire du pays comme le président qui, en l'espace d'un an, aura déclenché le plus d'opérations militaires. Alors qu'une partie des électeurs MAGA ont voté pour lui justement avec la promesse inverse. Cet impérialisme débridé suscite une inquiétude croissante parmi les pays alliés des États-Unis, mais aussi au sein du Congrès américain. Nombre d'experts s'interrogent notamment sur le peu de cas que Donald Trump fait du jour d'après. Les Européens affichent leur union et leur détermination pour tenter d'influer sur la politique américaine. À Washington, donc, aux États-Unis, des questions sur la méthode de Trump. Les intentions de l'administration sur le Groenland suscitent la perplexité ou le rejet d'élus du Congrès. Certains Américains se disent, mais qu'est-ce qui fait en fait? Voilà. Et puis justement sur cette impopularité de Trump, puisque la cote de popularité du président américain est en chute aux États-Unis, bon après c'est un classique, hein, il n'est pas le premier président américain à voir sa popularité popularité chutait au cours de son mandat. Traditionnellement, les élections de mi-mandat, les élections de mi-terme qui arrivent dans quelques mois aux États-Unis, sont des élections un peu sanction pour le président en place. Donc ça n'a rien de nouveau, mais pour ceux qui pensent que la cote de popularité, elle est stable ou en hausse de Trump aux États-Unis, c'est exactement l'inverse, elle est en baisse, comme d'autres présidents avant lui. Voilà. Et pourquoi elle est en baisse? Ben justement, on a une interview d'une chercheuse, une spécialiste des États-Unis, Amy Green, qui explique que les Américains sont préoccupés par l'urgence sociale dans le pays, la question du pouvoir d'achat aussi, et que Trump ne répond pas à ces questions. Voilà, et que l'interventionnisme de Donald Trump à l'international aura un impact limité sur sa popularité. Voilà. Et puis leur question, les Européens, qu'est-ce qu'ils font? Ben rien. Alors évidemment, je serai un peu moins lapidaire tout à l'heure, on développera cette idée, mais à la question posée ici par Lacroix, est-ce que l'Europe est condamnée à regarder le droit international s'écrouler sous les coups de boutoir de Trump? Bah, la réponse de cette analyse par Jean-Baptiste François, c'est oui. Voilà, les Européens ne font pas grand-chose, n'ont pas fait grand-chose, et si ça continue, ne vont pas faire grand-chose. Et puis on s'aérera quand même un petit peu avec un petit sujet hors de ces actualités, à la fin, avec un sujet plus sympathique qu'il n'a l'air, c'est comment les jeunes, les adolescents français, notamment, s'emparent de l'IA, de l'IA générative, de ChatGPT, dans leur quotidien, pour faire leurs devoirs, ou plein de choses. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas, témoignages de jeunes gens entre 15 et 15 ans. Ah non, 16. Entre 15 et 16 ans. Et c'est assez mignon. C'est une petite tranche de vie, ça parle d'IA, mais pas seulement. Et j'ai trouvé ça assez charmant, assez touchant, et on s'aérera avec ça à la fin. Et il est pas mal ce sommaire. Alors pardon, c'est rare quand même que ma revue de presse soit à ce point dominée par une actu. Là, on va beaucoup parler des États-Unis et de Trump. Voilà. Ça a été le cas, bien sûr, dimanche matin, quand je vous ai fait une spéciale Venezuela. Mais bon, c'est vrai que ça domine un petit peu l'actualité, et puis bon, après, on passera à autre chose. Ah, sûrement, demain, il y aura sûrement d'autres sujets, mais voilà, ce matin, c'était ça qui était très intéressant dans les journaux, je trouve. Oui, Défécateur, j'ai vu tes messages précédents déjà. Tu sais, la presse écrite a toujours un petit temps de retard, puisqu'elle a des contraintes. En tout cas, pour les versions papier PDF des journaux d'imprimerie, de bouclage, voilà. Alors que sur les sites internet de ces mêmes journaux, il y a déjà sans doute des papiers sur cette manifestante tuée par l'ICE, qui est la police de l'immigration aux États-Unis. Il y aura sûrement des papiers demain. Voilà. Mais moi, je suis de ceux qui préfèrent ne pas se presser parfois et avoir quelques heures de retard, 24 heures de retard, 48 heures de retard sur l'actu sur internet, qui est toujours après un gage de qualité, parce qu'il permet aux journalistes de prendre un petit peu le temps d'aller à la pêche aux informations, de vérifier les infos. Précipitation, course à la vitesse en matière d'information. C'est toujours la garantie, tôt ou tard, de dire n'importe quoi, les chaînes d'information continuent, en sont des spécialistes. Voilà. Donc je pense qu'au lycée, on en parlera sûrement demain. Alors là, on va commencer par effectivement l'histoire de la taupe au Venezuela. Et pour répondre à Superfab, ça n'est pas René, la taupe. Non, Superfab, je ne te laisserai pas te moquer et rire de tout. Non, la taupe au Venezuela n'est pas René la taupe, non. Stop. Un peu de décence. Il y avait une chanson, non? Il n'y a pas une chanson, non? René, c'est pas une chanson, non? Non, mignon. C'est pas non? Non, c'est pas ça. René, la taupe.
Imaginez pouvoir créer n'importe quoi.
Ça, c'est une pub, ça. Je m'en fous. Il n'y a pas une histoire comme ça? Voilà. Nous ne remercions pas la personne qui vient de nous remettre ce son dans la tête. Là, à un moment, il faut avoir un peu de respect pour l'actualité, quoi. Là, je ne peux pas cautionner ce genre de dérive. Heureusement que les gens qui les écoutent en podcast audio, là, hein, chez Spotify, Deezer et autres Apple Podcasts, hein, heureusement que voilà, on est sur des gens sérieux, hein, qui ne valident pas, je le sais, qui ne valident pas ce genre de comportement. Voilà. Mignon, 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 mignon. Donc, oui, Superfab, tu peux t'excuser. Tu peux t'excuser. Donc, redevenons sérieux. Donc, sur cette histoire de taupe évoquée par le Parisien à propos du Venezuela, let's go. Les modérateurs en liberté, voilà, qui créent des sondages, voilà, sur la taupe au Venezuela, je ne commenterai pas ce travail. Alors, lisons cet article du Parisien, j'en deviens un petit peu sérieux. Il y a forcément eu une taupe. Dans le chat, il y a un message que j'ai pas lu tout à l'heure. Ouais, les gauchistes. Enfin, non, il y avait une petite variante. Ouais, les socialistes. Je ne comprends pas les socialistes ici du chat, hein, qui se réjouissent pas de la fin d'un dictateur. Le peuple vénézuélien. Bon, alors, je t'ai pas répondu sur le coup parce que les infos, les réponses, elles arrivent après. Bon, ce qui se passe, ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'il n'y a aucun changement de régime. Chouchou. Cette dictature que tu évoques, ce régime autoritaire, a priori, il change pas. Il va pas changer. Enfin, pas là. Hein, Trump a dit, oh, les élections doucement. Trump a dit, oh, l'opposition doucement. Non, ce qui est en train de se passer, c'est que le régime ne change pas d'un iota. Ils ont juste changé le numéro 1, ils ont pris le numéro 2, ils l'ont passé le numéro 1. Et a priori, il n'est pas impossible qu'elle ait fait un petit deal avec les Américains sur le pétrole. Dans le genre, bon, allez, vous nous laissez au pouvoir. Hein, avec les militaires, avec les petits arrangements avec les trafiquants de drogue. Et puis on va vous libérer un petit peu les vannes du pétrole. C'est un petit peu ce qui est en train de s'écrire. Donc tu vas pas nous. Tu vas. Tu, je pense pas que tu vas réussir à nous imposer de nous féliciter, en fait. Pour ça. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de comprendre à la lecture justement de ces articles. Let's go. Le Parisien. Après la capture par l'armée américaine du président Maduro samedi en plein cœur de Caracas, la piste d'une trahison dans son entourage gagne du terrain. Un peu plus de 2 heures, c'est le temps qu'il a fallu à l'armée américaine pour neutraliser les défenses aériennes du Venezuela, pénétrer la résidence forteresse de son président Maduro et le capturer avec son épouse. Le genre d'opération fulgurante et rocambolesque que seuls les États-Unis sont capables de mener. Trump, en commentant ça, il a dit waouh, c'était comme un film. La mission a nécessité des mois de planification et de répétitions minutieuses. Des agents du renseignement américain épiaient depuis août le moindre geste de l'héritier d'Hugo Chavez. En complément, une flotte de drones furtifs assurait une surveillance quasi constante du Venezuela. Bon, les moyens militaires américains, on n'en doute pas. Comme tu es grossier, qu'est-ce qu'on fait de docteur Brio là qui est grossier? Je fais une petite pause. Merci le corne. Non, 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 il faut un peu de mansuétude. Ah oui, il y a dans le passé, il y a oui. Ok, je vois, ouais. Oui, je me fais un petit plaisir. Ah oui, donc oui. Sarkozy aussi, d'accord, ok. C'est la Stasi qui modère. Je suis sur ton historique. Hein. Ok. Je n'aimerais pas être professeur d'économie et lire ce chat. Ok. Légende. Alors là, pardon, je fais une petite pause. Alors, amis, en podcast audio, vous n'avez pas l'image. Je suis en train de lire l'historique d'un viewer un peu énervé ce matin. Donc, et là, l'avantage, c'est qu'on a l'œuvre. Légende, c'est le podcast vidéo là, dont on a parlé, est probablement le meilleur podcast de France actuellement. On ne voit pas. Ah ben non, mais vous n'avez rien à voir. C'est un historique. Je ne vais pas vous montrer l'historique de la personne. C'est pas sympa. Ouais, on avait parlé de ça. un petit plaisir perso du streamer. Après, t'es poli en général, hein. Voilà, ce matin, tu t'es un peu énervé parce que t'étais pas d'accord avec notre analyse du Venezuela, mais t'es poli sinon. Ce qui est déjà formidable en vrai. Ah, mais ici, vous n'êtes pas sur une chaîne d'un journaliste. Vous assistez à l'angle de vue d'un mec de gauche qui se réjouit. Alors, réjouit, je ne l'écrirai pas comme ça, mais peu importe. Qu'un président entre en prison. Tu parles de Maduro là? Ah non, c'est trop tôt. Ah, tu parles de Sarkozy. D'accord. Ok. 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 Docteur Brio aime souffrir parce qu'en fait, il s'impose cette chaîne depuis un moment déjà. Ok. Mais pourquoi tu viens souffrir en fait Beau petit chat d'insoumis, comment ils vont les Gazaouis? Ah putain la vache. Et au milieu de ça, il y a des choses plutôt apaisées d'ailleurs. C'est pas, vous savez, c'est pas full critique et full violent, hein. Je vous lis que des extraits parce que entre-temps, il y a des choses hyper pertinentes, hyper apaisées. C'est même assez brillant, mais parfois il y a des petits moments d'énervement comme ça. Ce chat devient vraiment à gerber. Oh là là, non. La France des wokistes voyage au bout de l'ennui. Oh là 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 là. Mais pourquoi s'infliger tant de violence? Allez, c'est parti pour 10 minutes de bonne pensée. Bon, je vais pas remonter tout l'historique parce qu'il y a beaucoup, hein, il y a trop, hein. Ah, instant gauchiste. On se cache les yeux, on se bouche le nez. Tout va bien dans ce pays. Désarmer la police. Ben vous savez ce qu'on va faire? Eh ben rien. Et j'espère qu'aucun modérateur n'a sanctionné Docteur Brio. On va rien faire du tout, parce que, bah écoute, la personne a le droit d'être énervée, elle a le droit d'avoir ses opinions. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime que des gens ici soient pas d'accord avec moi. J'aime que les gens me challengent. J'aime que les gens soient un petit peu. Voilà. Bon, après, il y a des mots, il y a des mots, mais pas tous les jours et pas sur chaque stream. Il y a des mots parfois un petit peu énervés. Voilà, ça manque un petit peu de contrôle parfois. Bon, après, je peux comprendre que certaines de mes positions et analyses irritent. Mais en vrai, moi, c'est un peu énervé. C'est un peu énervé. Parfois un peu trop. Mais en vrai, moi, je trouve que c'est intéressant. D'avoir Docteur Brio avec nous. Je crois que c'est Docteur Brio. Voilà. Ça ne me dérange pas d'être un peu comme ça, challengé, bousculé. Voilà. Donc Docteur Brio, écoute, moi je suis content que tu sois là. Je suis pas d'accord avec pas mal de tes analyses, mais continue si tu veux à passer du temps avec nous, parce que manifestement tu t'infliges ça souvent. Mais en revanche, même si t'es pas d'accord avec moi ou avec nous, avec d'autres viewers, etc. N'hésite pas parfois. À exprimer ça de façon un tout petit peu plus apaisée, je me dis quoi? Parce que t'imagines si tout le monde s'exprimait comme toi dans le chat, parfois, hein, parce que t'es pas toujours comme ça. En fait, le chat serait un peu. Tu vois, ce serait. On n'arrêterait pas de se taper sur la tête, tu vois. Voilà. Allez. C'est intéressant, c'est aussi une. Pourquoi je passe un petit peu de temps sur le cas de notre ami? C'est parce qu'en fait, tout ça, c'est une réflexion sur comment aujourd'hui, parce qu'on est encore très immature, on est encore des enfants par rapport à tous ces outils, les réseaux sociaux, les plateformes, comment cette immense liberté incroyable qu'on a acquise et qui est exceptionnelle, qui est fascinante, de pouvoir utiliser ces outils pour s'exprimer, pour donner son opinion. Voilà. Je pense qu'on l'utilise de façon encore un peu infantile, voilà. Sans se rendre compte que nos propos ont des conséquences, que ça peut. que ça peut bloquer les gens, brusquer les gens, provoquer des réactions qui elles-mêmes sont violentes. Donc, je pense qu'il faut apprendre à utiliser ces outils, et je pense qu'il faut apprendre à s'exprimer pour réussir à faire comprendre qu'on n'est pas d'accord avec des analyses, mais y mettre un peu les formes. Mais y mettre un peu les formes. Voilà. Docteur Brio, réciproquement, Samuel, je te parle mal quand tu es condescendant comme ton chouchou, je me mets juste au niveau. Sauf que ce n'est pas ta chaîne, docteur Brio. C'est ma chaîne. C'est là où tu manques d'intelligence, docteur Brio. Tu vois, moi aussi, je suis condescendant. En fait, c'est mon numéro. C'est mon numéro de claquette, en fait. Et tu n'es pas le personnage principal, docteur Brio. Tu seras le docteur principal, le personnage principal de ta chaîne. Voilà. Mais ici, c'est mon analyse, c'est ma vue. Voilà. Vous pouvez la challenger, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est ma chaîne et donc j'y dis ce que je veux. Voilà. Et justement, par transparence, je vous dis ce que je pense des sujets. Après, vous pouvez le remettre en question, vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est toujours ma chaîne. Voilà. Donc si tu veux être le personnage principal de cette chaîne, bah non, il faut que tu crées la tienne. Est-ce que tu vois un peu l'idée? Et si tu veux t'infliger cette violence, c'est-à-dire de consommer des opinions, des valeurs, des idées qui ne sont pas les tiennes, bah, reste avec nous, mais silencieusement. Parce on est plutôt gentil ici, mais on n'est pas faible non plus, tu vois. Et il y a une partie de tes commentaires sur cette chaîne qui sont de la pollution et qui sont en plus des commentaires exprimés violemment. D'autant que l'argumentation est pas souvent très développée. Tu parlais de café du commerce, dire qu'on devrait se réjouir de l'arrestation de Maduro dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui. Ton commentaire, je l'ai lu, franchement, ça m'a pas fait vaciller dans mes opinions, quoi. Donc il n'y a rien de très impressionnant non plus dans ta démonstration, quoi. Hein? Mais si tu veux proposer tes analyses, tes opinions au reste du monde, voilà, n'hésite pas à créer ta chaîne. Ok? Allez, on continue. Ah, ça fait du bien. Mais on retrouvera Docteur Brio et puis il continuera de s'exprimer, mais peut-être qu'il y mettra un petit peu de forme, au pluriel. Alors, je reviens à notre histoire de taupe au Venezuela. Est-ce suffisant, donc tous ces moyens militaires américains, pour mener à bien une opération d'une telle complexité? Les États-Unis ont-ils bénéficié de complicité dans l'entourage de Nicolas Maduro? Parce que c'est cette question qui nous intéresse. C'est vrai que je me suis un petit peu exprimé avec brio là. Depuis quelques minutes, je suis assez d'accord avec vous. Les États-Unis ont-ils bénéficié de complicité dans l'entourage de Nicolas Maduro? Vu le peu de résistance opposée aux troupes américaines, hein, parce que ça a été quand même très rapide, on est en droit de se poser la question, dit le Parisien, voilà, et l'hypothèse d'une trahison gagne du terrain. Hop, c'est vrai que du coup, j'avais pas changé de sujet. Le fils du dirigeant arrêté, donc qui est parlementaire manifestement, qui s'appelle. Il s'appelle Nicolas aussi? D'accord. Le fils du dirigeant arrêté, le parlementaire Nicolas Maduro Guerra, a déclaré dans un message audio que l'histoire dira qui étaient les traîtres, en réponse aux rumeurs autour d'un espion présumé. Donc le fils du président lui-même parle de traître. D'après le New York Times, une source de la CIA au sein du gouvernement vénézuélien a surveillé les déplacements de Nicolas, ah oui, Maduro dans les jours et les instants précédant l'opération. On ignore encore comment l'agence a recruté cette source vénézuélienne. Mais le gouvernement américain offrait une récompense de 50 millions de dollars pour toute information menant à la capture du président. Quelqu'un a pu décrire avec précision, manifestement aux Américains, l'intérieur de sa maison pièce par pièce. Les soupçons se portent donc sur sa garde rapprochée cubaine, composée d'une centaine d'hommes. Une trentaine d'entre eux ont été tués lors de l'opération. Il y a forcément eu une taupe cubaine. L'opération n'aurait pas été possible sans qu'on prévienne les Américains qu'il dormait exactement à cet endroit-là et avec sa femme. C'est d'autant plus curieux qu'ils ne dormaient pas souvent ensemble, expliquait une historienne franco-vénézuélienne, Laurence Debray. Ils étaient très parano tous les deux sur leur sécurité. Nicolas Maduro prenait soin de changer régulièrement de résidence, de téléphone, de garde rapprochée. Pourquoi des Cubains? Parce qu'en fait, les liens entre le Venezuela et Cuba sont très forts, notamment. Leur chambre était au milieu d'un fort, l'endroit le plus sécurisé du pays, poursuit-elle. Sans indice de l'intérieur, c'est impossible de débarquer comme cela et de faire l'opération aussi rapidement. Comme le dit Poum, il ne faut pas oublier qu'il y a possiblement plusieurs taupes et pas seulement une seule. Le dirigeant vénézuélien n'a pas eu le temps de rejoindre la pièce blindée en acier massif. Il n'a pas réussi à fermer cet endroit. Il essayait d'y entrer, mais a été si rapidement pris qu'il n'y est pas parvenu. C'est Trump qui le déclare lui-même. On a été équipé de chalumeaux puissants pour percer l'acier, mais on n'a pas eu besoin, à confier Trump. Si les Américains sont arrivés avec l'équipement nécessaire, cela ne peut être qu'une infiltration de la machine cubaine, estime Nelson Castellano Hernandez, qui est l'ancien consul général du Venezuela en France. Les regards se tournent aussi. Donc est-ce que les fuites sont venues de l'entourage de sécurité du président Maduro avec ses gardes du corps cubains? Est-ce que c'est venu de membres de sa garde rapprochée? Est-ce que c'est venu de la vice-présidente? Les regards se tournent aussi vers la présidente par intérim, donc ex-vice-présidente devenue présidente, Delcy Rodriguez, et son frère Jorge, président de l'Assemblée nationale. Deux piliers centraux de l'élite dirigeante vénézuélienne. Jorge. Bon, je vais le dire Jorge parce que je fais très mal la rota. Deux piliers centraux de l'élite dirigeante vénézuélienne. Trump a tout de suite soutenu la transition à travers Delcy, cela signifie que c'était dealé, poursuit le diplomate. Samedi, la vice-présidente exigeait la libération immédiate de Nicolas Maduro et l'assurait de son soutien inconditionnel. Le lendemain, le ton changeait radicalement. Nous invitons le gouvernement américain à travailler conjointement à un agenda de coopération. Donc vous aviez samedi la vice-présidente qui exigeait la libération immédiate de Maduro en disant « il n'y a qu'un président, c'est Maduro ». Ça, c'est samedi. Et le lendemain, le dimanche, la même vice-présidente disait le ton changer radicalement, nous invitons le gouvernement américain à travailler conjointement à un agenda de coopération. Est-ce que la première déclaration elle vise plutôt le Venezuela, les Vénézuéliens, et la deuxième, le lendemain, la communauté internationale et les Américains? En tout cas, il y a un changement de ton qui est assez intéressant. Si nous dressons une liste des suspects, de ceux qui ont changé de camp, il y a eu le petit coup de pression de Trump aussi, Chevalier Creux, tu as raison, qui a dit... qu'il l'a menacée directement en disant que si le comportement du Venezuela ne changeait pas, effectivement, tous les dirigeants vénézuéliens subiraient le même sort que Maduro. C'est vrai. Si nous dressons une liste des suspects, de ceux qui ont changé de camp ou qui tentent de survivre non seulement personnellement, mais aussi politiquement, Delcy est la première sur la liste. Estime qui ? Estime Jésus Ressus Núñez Vilaverde, co-directeur de l'Institut d'études sur les conflits et l'action humanitaire sur le site espagnol La Sexta. Fidèle parmi les fidèles du régime chaviste, cette vice-présidente, qui est devenue la présidente par intérim, c'est elle que Maduro envoyait aux États-Unis ou au Qatar pour négocier. Notamment, je crois qu'elle a été aussi ministre du pétrole. En a-t-elle profité de ses visites aux États-Unis pour proposer d'être sa remplaçante? Voilà. En tout cas, elle a fait passer ses idées. En octobre, le Miami Herald révélait des tractations secrètes entre les États-Unis et les responsables du gouvernement vénézuélien, Delcy, la vice-présidente, et Jorge Rodriguez en tête sous la médiation du Qatar. Merci Val-Normand. Selon le quotidien, deux propositions ont été présentées à Washington en avril et en septembre. Elles listaient des noms pour assurer la gouvernance sans Maduro au pouvoir. Ça, sont des révélations, a priori, d'un média américain, le Miami Herald. Voilà. Parmi les noms pour remplacer Maduro, Delcy Rodriguez, la vice-présidente. Les scénarios évoquaient un exil de Maduro au Qatar ou en Turquie, voilà. Ou encore un abandon des poursuites pénales contre lui, voilà. Mais à condition que Maduro accepte, quoi. Et a priori, ce que j'ai lu aussi, c'est que Maduro aurait refusé, en fait, d'être exfiltré. D'où l'opération de kidnapping. Ils ont lâché Maduro symboliquement. Il, c'est le régime chaviste vénézuélien, pour que cela tienne, constate Laurence Debray. La position de l'administration Trump s'est durcie sous l'influence de l'intransigeant secrétaire d'État Marco Rubio, qui prône le changement de régime. Les Américains ont offert des portes de sortie à Nicolas Maduro, rappelle l'historienne. Ils ont vu que ça n'allait nulle part, que Maduro ne voulait pas accepter ses... Salut, Sugar. Ces pressions, alors ils ont opéré. Voilà. Attention, on va mettre beaucoup de prudence et de conditionnel, hein. Ce sont des suppositions, tout ça. Hein. Hein, des révélations journalistiques, des analyses de spécialistes de la région. Mais il y a cette idée que Maduro a peut-être été lâché par le régime, et cette idée peut-être que Trump ne va absolument pas faire pression pour un changement de régime, mais tout simplement se contenter d'un deal avec ce nouveau régime sur le pétrole vénézuélien, en mode, écoutez, on vous laisse tranquille, on vous laisse au pouvoir, mais par contre, il va falloir changer la manière dont les entreprises américaines, les entreprises pétrolières ont accès à ce pétrole. Voilà. Hypothèse, mais qui est beaucoup évoquée. C'est ce qu'évoque aussi Le Monde dans cet article ici, intitulé « La fausse transition ». Certains voudraient qu'on se réjouisse de cette opération militaire américaine, mais à condition, si je puis me permettre, que ça profite aux Vénézuéliens et aux Vénézuéliennes. Et pour l'instant, salut Silverdog, c'est pas ce qui semble se dessiner. C'est ce que veut expliquer Le Monde. Fausse transition. État d'urgence et fausse transition. Un calme précaire traversé de tensions règne dans le pays depuis l'enlèvement de Nicolas Maduro par les États-Unis. Un calme précaire, beaucoup d'interrogations au Venezuela, en particulier à Caracas. La population est sur le qui-vive. Hein. Trois jours après l'enlèvement du président Maduro par les forces spéciales américaines, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier, au terme d'une opération qui a fait au moins 56 victimes, selon un bilan établi par les autorités cubaines et vénézuéliennes. La tension et la peur sont palpables. Rapporte sous le couvert de l'anonymat une Vénézuélienne présente dans la capitale. Les gens sortent pour faire le strict nécessaire. Les courses, le plein d'essence, se rendent au travail pour ceux qui doivent y aller, mais l'activité tourne à demi-régime. Ils craignent, les habitants de Caracas, de nouvelles attaques, des flambées de violence, car la situation reste très confuse. Bien que sporadique, des manifestations pro-Maduro ont été organisées à l'appel du régime, à l'instar de la grande marche de femmes qui s'est tenue mardi dans les rues de Caracas pour demander la libération du dirigeant et de son épouse. Contrairement aux images de la diaspora en fête dans plusieurs villes du monde, des scènes de liesse de Vénézuéliens, mais en dehors du pays, après l'enlèvement du dirigeant chaviste, aucune célébration n'a eu lieu au Venezuela. Et pour cause. L'une des premières mesures entérinées dès le 3 janvier par le régime a été la déclaration d'un décret d'estado de commotion extérieure, une sorte d'état d'urgence, qui octroie des pouvoirs élargis au chef de l'État. Donc un état d'urgence mis en place alors même que le Venezuela n'est pas en guerre et que la nouvelle chef de l'État par intérim, Delcy Rodriguez, a annoncé qu'elle coopérerait avec les États-Unis. C'est la désillusion, en gros, dit Nougat. Oui, pour ceux qui ont espéré qu'il y allait avoir un changement de régime et l'arrivée d'une démocratie réelle et de l'opposition au pouvoir. Mais après, peut-être que ça va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois qui viennent. En tout cas, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Le décret habilite l'exécutif à réquisitionner les biens jugés nécessaires à la défense nationale, à suspendre certains droits, le droit de réunion, le droit de manifestation publique. Donc c'est cet état d'urgence-là. Il ordonne notamment la recherche et l'arrestation de toute personne impliquée dans la promotion ou l'attaque de l'armée des États-Unis. Et il n'est pas rare que les forces de sécurité fouillent le contenu des téléphones portables en ce sens. À Guaraque, province de Mérida, la police a d'ailleurs communiqué sur l'interpellation de deux hommes qui avaient célébré l'enlèvement de Maduro. Dans l'état de Táchira, le gouverneur Freddy Bernal a prononcé un discours mettant en garde ceux qui seraient tentés de faire des blagues stupides sur la capture du président. Dans les rues de Caracas, les colectivos, ces groupes paramilitaires armés, eux ont défilé à moto, installé des barrages, escondés, toujours loyaux, jamais traîtres, douter, c'est trahir. Ils étaient accompagnés du ministre de l'Intérieur. Signe de la tension, le syndicat national des travailleurs de la presse vénézuélien a dénoncé lundi l'arrestation de 14 journalistes, dont 13 travaillaient pour des médias internationaux. S'ils ont été libérés sans avoir été présentés au tribunal, un a été expulsé, le syndicat s'est alarmé de la fouille des équipements, du déblocage des téléphones, de la surveillance des appels et des messages. Finalement, tout a changé. Maduro n'est pas là, n'est plus là, mais rien n'a changé. Et le Venezuela ne peut que retenir son souffle, tandis que le chavisme se recompose, est en train de se recomposer sans Nicolas Maduro, mais autour de sa figure et de ses proches. Les opposants au régime espéraient que le départ du dirigeant signerait une renaissance de la démocratie et des libertés individuelles. C'est pour l'instant, tout le contraire qui est arrivé. On attendait notamment le retour imminent des opposants Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025, et d'Edmundo González Urrutia, qui ont dit que la victoire de la présidentielle de juillet 2024, qui est une élection présidentielle qui a été truquée. Hein. Mais c'est Delcy Rodríguez, chaviste convaincu, ancienne numéro 2 du régime, présente aux côtés de Maduro depuis 2018, que les États-Unis ont adoubé, semant la confusion. Pourquoi? Ça, c'est une des questions que je me pose. Pourquoi la prix Nobel de la paix, hein, qui est présentée comme la figure de proue de l'opposition, Madame Machado, pourquoi elle a été écartée par Trump et par les États-Unis, selon certains médias américains, selon le New York Times et Wall Street Journal? Machado a été écartée car la CIA estime qu'elle ne serait pas en mesure de contrôler la police et l'armée et de garantir la stabilité du pays, contrairement à Delcy Rodríguez et son entourage. Rappelons que l'opposition... Alors, oui, il y a l'histoire de parce qu'elle lui a piqué le prix Nobel. Enfin, Trump est un personnage peu recommandable, un peu inquiétant, dont il est toujours compliqué de prévoir les actions. Mais franchement, lui reprocher de faire payer à Madame Machado le fait d'avoir eu le prix Nobel que lui convoitait, ben, c'est vraiment un comportement d'enfant, quoi. Alors, peut-être, mais ça me semble un peu simpliste comme explication, tu vois. Est-ce qu'il est à ce point infantile? Je doute quand même de cette explication. Il y a une autre explication qui est mise en avant. Trump, l'intérêt ici, c'est notamment l'intérêt économique. Il l'a dit lui-même, hein, c'est le pétrole. Il le dit, je n'invente rien, il le dit, il l'a dit, il l'a redit. C'est le pétrole. Et son analyse, notamment soufflée par la CIA, c'est que l'opposition vénézuélienne n'ayant pas joué le jeu des élections, puisqu'elles étaient truquées et ayant boycotté les dernières élections, n'a pas d'élus parlementaires, n'a pas d'élus de maire, de M-A-I-R-E-S, de ville, hein, et n'a pas aucune commande du pays, un pays qui par ailleurs est gangréné par les milices, hein, par les milices dont on a parlé tout à l'heure, et par les narcotrafiquants. Et l'analyse de Trump et de la CIA serait que laisser l'opposition arriver au pouvoir, notamment Madame Machado, ce serait le début d'une crise interne au pays, avec des affrontements intergroupes, une période d'instabilité. Et l'instabilité, c'est pas bon pour quoi ? C'est pas bon pour le business. Le pétrole. Et on y revient. Voilà. Je suis personnellement un peu plus séduit par cette analyse. Voilà. Moi, je trouve ça... Alors, peut-être que je me trompe, mais je trouve ça intéressant. Donc, selon le New York Times et le Wall Street Journal, Madame Machado a été écartée car la CIA estime qu'elle ne serait pas en mesure de contrôler la police et l'armée et de garantir la stabilité du pays, contrairement à Delcy Rodríguez et son entourage. Voilà. Son frère, Jorge Rodríguez, réélu président de l'Assemblée, artisan de négociations bilatérales avec les États-Unis en 2023, Diosdado Cabello, qui contrôle la police et l'appareil répressif, et le ministre de la Défense. C'est le même cercle de dirigeants qui est au pouvoir, donc le plus probable est que la même situation perdure, selon un défenseur des droits de l'homme et avocat vénézuélien qui s'appelle Marino Alvarado. Répression des dissidents, prisonniers politiques, et sur le plan social, inflation, l'inflation est gigantesque, je crois, dans le pays, les salaires et les retraites inférieurs à 1 dollar par mois. L'intérêt du gouvernement américain réside dans la stabilité, même au prix de la répression, afin de pouvoir investir dans l'industrie pétrolière. Je regarde la fin de l'article s'il y a des informations nouvelles supplémentaires par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Salut à Thibaut. Donc pour un monsieur qui s'appelle Monsieur Oustategui, qui est co-directeur du laboratoire de paix, Delcy Rodriguez, donc la vice-présidente devenue présidente par intérim, joue un double jeu aujourd'hui. Elle doit maintenir un niveau de rhétorique anti-impérialiste, donc anti-États-Unis notamment, constitutif du chavisme, à destination de l'intérieur, et notamment des soutiens du régime, ça lui harmonie. Publiquement, le gouvernement va donc parler d'agression, d'enlèvement, réclamer la libération de Maduro, etc. Mais il n'y a eu aucune décision institutionnelle ferme. Elle va coopérer en matière économique avec les États-Unis, dans une sorte de capitalisme à la chinoise, c'est-à-dire ouverture économique sans liberté politique. Mardi, Donald Trump a annoncé sur son réseau social Truth Social que les autorités par intérim du Venezuela vont livrer entre 30 millions et 50 millions de barils de pétrole sous sanctions et de haute qualité aux États-Unis. Ni les exigences de Trump, lutte contre le narcotrafic, interruption de l'envoi de pétrole à ses rivaux géopolitiques, exploitation d'hydrocarbures par les compagnies américaines, ni les intérêts de Delcy Rodriguez ne semblent passer par une transition démocratique. Personne ne parle d'élection prochaine, ni de libération des prisonniers politiques. Il en restait 806 au 5 janvier. Voilà. Dimanche, 24 ONG ont demandé une amnistie générale comme un premier pas vers une redémocratisation du Venezuela. Ne vous moquez pas de l'analyse de... Quelqu'un se moque de l'analyse de Shai Walker, là, que je viens de voir. C'est pas forcément si erroné que ça. Parce que les avis là-dessus sont très divisés. Je vous explique. Shai Walker a écrit... La légende Trump veut le pétrole vénézuélien ne tient pas réellement. Il s'agit de pétrole lourd, voire extra lourd, qui est très très dur à raffiner et à extraire aussi. Il n'est pas vraiment rentable à moins de fixer un prix très élevé. Et ça n'est pas faux. J'ai vu ces derniers jours des analyses qui disent que c'est vrai, le pétrole vénézuélien, il nécessite pour être extrait et raffiné des énormes investissements. Il n'est pas certain que les entreprises américaines, les pétroliers américains, soient prêts à faire ces immenses investissements, sachant que qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années au Venezuela? Hein, il y a eu des nationalisations dans l'histoire du Venezuela, notamment d'entreprises américaines. Donc, est-ce que les entreprises américaines sont prêtes à investir ces milliards de dollars pour avoir accès à ce pétrole? Certains se posent la question et certains se demandent si Trump a pas fait ça uniquement pour des raisons d'ego ou à destination interne, alors que sa popularité diminue aux États-Unis, que des élections de midterm arrivent. C'est une façon de détourner l'attention et de se poser en président conquérant qui porte haut la bannière des États-Unis à travers le monde, voilà, qui fait trembler le monde, mais littéralement, ce qui est vrai, par ailleurs, avec finalement un. L'explication du pétrole, où il y croit, lui, mais les milieux économiques, eux, disent que c'est pas si facile que ça, hein, où il y croit même pas lui, mais qu'il se sert en fait de cette action militaire à des fins internes, à des fins politiques. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'on n'est pas dans la tête de Trump, et il y a une seule personne qui sait tout ça, c'est Trump. À supposer qu'il le sache lui-même d'ailleurs. Voilà. Mais je ne suis pas dans sa tête, et donc je ne peux pas vous dire moi. Mais par contre, je peux vous proposer les différentes analyses que je lis, quoi. Il y a des lignes qui disent c'est peut-être pas rentable avec le cours du baril actuel, mais les ressources mondiales se raréfient et vont se raréfier, c'est pas faux non plus, et le prix du baril va de toute façon augmenter. Oui, il y a cet aspect-là aussi. Quel impact peuvent avoir les élections de mi-mandat? Est-ce que cela pourrait faire un peu désescalader Trump? Oui, dans certaines mesures, s'il perd sa majorité au Congrès, si les démocrates ont de bons résultats, Crapsy Burger. Après, on vient de voir que Trump n'a absolument pas consulté le Congrès pour décider son opération militaire au Venezuela, alors que normalement la Constitution américaine l'y oblige, donc on pourrait aussi imaginer un Trump qui continue à en faire qu'à sa tête. En ignorant les contre-pouvoirs, et notamment l'opposition d'un congrès qui serait devenu démocrate. Après, les contre-pouvoirs, ils existent aux États-Unis. Vu de chez nous, on a l'impression que Trump n'en fait qu'à sa tête. Il se trouve que beaucoup des décisions de Trump ces derniers mois ont été battues en brèche par le congrès et par la justice américaine. Voilà. Donc il n'a pas totalement les mains libres. Les contre-pouvoirs, même si Trump veut les ignorer, ils sont là. Et il y a une partie de la politique de Trump, notamment, vous savez, sur les suppressions de postes de fonctionnaires, par exemple, et la fermeture de certaines administrations, la justice en a retoqué pas mal. Donc tu peux ignorer les contre-pouvoirs, mais parfois, ils sont là quand même, quoi. Je vous lis. De toute façon, après, on parlera justement de la scène politique intérieure et de la baisse de popularité de Trump actuellement dans un papier dans je sais plus dans quel journal, dans Le Monde aussi tout à l'heure. Je vous lis un petit peu parce que vous êtes assez motivé sur le sujet. Il y a Maïs87 qui écrit à propos du pétrole vénézuélien que une grande partie des raffineries américaines sont faites justement pour ce super pétrole, pétrole super lourd, pardon, mais qui est épuisé dans les gisements américains. Prendre celui du Venezuela, c'est remettre à flot ses assets déjà existants. C'est intéressant. On se focalise sur Trump, mais Rubio et Vance, qui sont derrière, et plus jeunes et en meilleure santé, sont pas mieux en fait. Bah oui, il y a aussi certains propos de cette analyse en fait que Trump serait très influencé par une partie de son entourage MAGA, notamment les noms que tu viens d'évoquer là. Voilà. Et que le vice-président J.D. Vance, qui espère bien être le candidat du camp républicain à être élu à la prochaine présidentielle des États-Unis, est exactement sur la même ligne MAGA que Trump, quoi. Voire un peu plus extrémiste, extrême. Une bonne nouvelle de Nico Dindon. Bonjour, j'ai accompagné les enfants à l'école avec la marche pingouin. Ça fonctionne parfaitement, surtout dans les bâtiments. Je vous l'avais dit. Merci Malago, merci pour ton message. T'as à deux doigts de passer VIP. Donc justement, je vous propose cet article. Maintenant, sur le Groenland. Et après, on ira aux États-Unis sur la scène intérieure. Voir qu'aux États-Unis, il y a des critiques aussi. Hein. Aux États-Unis, il y a des critiques aussi, hein, qui viennent de l'opposition, qui viennent de certains élus républicains, qui viennent aussi des médias, qui viennent d'Américains, qui ne sont pas du tout derrière Trump, et notamment sa politique diplomatique internationale aujourd'hui, quoi. Mais d'abord, on va passer par le Groenland. Voilà. Donc tout le monde met une petite laine. Waouh, quel humour de daron. Ok, qu'est-ce qui se passe au Groenland? Bon, on en a déjà parlé ces derniers jours, mais c'est le dossier de l'humanité ce matin. Merci Insertcoin, merci The Messimp, merci Valnormand, merci Sassou pour les bits, merci King Julian, merci Le Corne, merci Lilize, j'ai remercié personne. Il faut que je mette un poule. Pour ceux qui ont la ref, on a eu un débat hier sur la prononciation de sweatshirt, qu'on devrait dire sweatshirt, et pas sweatshirt, parce que ce n'est pas doux, ça vient de sueur. Voilà, on a eu ce débat, et après on a dit à ces gens, ah ouais? Et alors, dans ce cas-là, on met pas un pull, on met un pull. Voilà. On a passé une heure là-dessus. Voilà, c'était très drôle. Une de l'humanité à l'assaut du Groenland, donc n'hésitez pas à mettre un sweat ou un pull. Voilà. Donald Trump multiplie les menaces sur l'île Arctique riche en ressources. Les Européens s'en tiennent à la déclaration de principe. Une éventuelle annexion militaire par les États-Unis signerait la mort de l'OTAN. Voilà. Ne dites pas sweat. Bien sûr que en bon anglais, on devrait dire un sweatshirt. Voilà. Sauf que à un moment, il faut peut-être embrasser eh bien, la prononciation du plus grand nombre et de la population. Une langue, elle évolue. Voilà. Par exemple, Maude Zarella dans le chat nous confie, nous dit, je me suis fait moquer pendant des mois. Au collège, après avoir prononcé souhaite, elle était dans son droit, elle avait raison. On peut dire souhaite, mais voilà, elle a été paria. Elle a été mise de côté. À la cantine, j'extrapole, à la cantine, il n'y avait jamais de dessert pour elle. Voilà. Quand elle demandait du rab aux dames de la cantine, elle n'en avait pas. Elle a été mise de côté. À la récré, personne ne venait jouer avec elle parce qu'elle avait un sweat et pas un sweat. À un moment, les gars, tant pis, mettons un mouchoir sur notre rigueur langagière, voilà, pour peut-être pour privilégier la relation sociale, tout simplement. Je ne connais personne qui prononce « souhaite », me dit Nadion. Ah non, tu as dit « sweet », toi ? Non, moi, je ne connais personne qui dit « souhaite ». Moi, je dis « sweet ». Parce que moi, je privilégie l'humain. Je privilégie la relation à l'autre. Si la plupart des gens disent « sweet », je dis « sweet ». Je ne vais pas me battre là-dessus. Je ne vais pas, je ne vais pas crier sur des gens dans la rue parce que j'ai entendu qu'ils disaient « sweet ». De même que je ne vais pas crier sur eux s'ils disent « pull », alors qu'on devrait dire « pull ». Un pull over. Voilà. On va au Groenland. Après le Venezuela, nous dit l'humanité, l'ultimatum au Groenland. Profitant de l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro et de sa femme, Donald Trump a intensifié ses menaces sur l'île Arctique sous pavillon danois. On en a parlé hier, on va en reparler. Imaginez dans les premières heures, dans les prochaines heures, imaginez, édition spéciale, voilà, après-midi Étienne, soirée Étienne, matinée Étienne, nuit Étienne, que sais-je, voilà, je lance une notification, l'armée américaine attaque le Groenland. Imaginez. Voilà. Bon, ou pas, mais si jamais ça arrive, bah préparons-nous avec les infos autour de ce sujet. Le compte à rebours a été lancé dimanche par Donald Trump à bord d'Air Force One. Dans 20 jours, soit le 24 janvier, parlons du Groenland. Dans environ 2 mois, nous nous occuperons du Groenland. Il n'en fallait pas plus pour faire monter la pression d'un cran. Au cours de l'année 2025, le président républicain n'a cessé de menacer l'île Arctique sous pavillon danois d'annexion. Après le rapt illégal du président Maduro et de sa femme, Silvia Flores au Venezuela, l'affaire est prise plus au sérieux qu'elle n'en était jusqu'alors. Bah oui, parce qu'avant on rigolait. Les États-Unis vont envoyer l'armée américaine au Groenland pour piquer le Groenland au Danemark. Eh ben maintenant, on rigole moins. Depuis le Venezuela. À Nuuk, le Premier ministre, Jan-Fredrik Nielsen, a tenté de calmer le jeu et réclamer des discussions dans le respect du droit international. À Copenhague, en revanche, on n'hésite plus à envisager le pire. Si les États-Unis choisissent d'attaquer militairement un autre pays membre de l'OTAN, puisque les États-Unis comme le Danemark sont membres de l'OTAN, alors tout s'arrête, y compris l'organisation elle-même, l'OTAN, hein, et la sécurité instaurée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a prévenu la Première ministre. Première ministre Mette Frederiksen, dont le pays, le Danemark, a confirmé en octobre l'achat de 16 avions de combat F-35A supplémentaires aux États-Unis. Faut pas se moquer. C'est trop facile après coup. Ouais, ils auraient dû acheter européen. Et ben voilà. Bon ben voilà. Groenland et Danemark ont appelé à des pourparlers avec le secrétaire d'État états-unien, Marco Rubio. Mercredi, l'intéressé a annoncé une rencontre de la semaine prochaine avec les représentants des deux pays. Sur quoi pourrait déboucher l'ultimatum de Washington ? C'est-à-dire quand Trump dit « on va parler du Groenland et on va s'occuper du Groenland », c'est un ultimatum. Sur quoi ça pourrait déboucher ? Une énième promesse d'achat, parce que dans le passé, Trump, lors de son premier mandat, avait proposé un chèque. Est-ce que quelqu'un se rappelle du montant du chèque ? C'est un gros chèque. Est-ce que quelqu'un se rappelle ? Dans son premier mandat, Trump avait dit « hey les gars, le Groenland, je vous fais un chèque. Je rachète le Groenland. » C'était gros, c'était un gros chèque. Non, pas 10 000 dollars, c'était énorme. C'était énorme! Non! 2019, me dit AMG. Ah non, c'était gigantesque! Mais non, pas 10 dollars! Ouais, AMG dit 500 milliards, c'est plutôt un truc comme ça, ouais. C'était énorme! Attends, je vais vous le retrouver parce que vous n'êtes pas sérieux là. Achat Groenland 2019. C'est pas la première fois parce qu'après la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, ils avaient déjà fait la même proposition les États-Unis. Ils sont obsédés par le Groenland. Alors, est-ce que j'ai un montant de chèque? Ah, le président américain, article du Monde. Dollar. Alors, je l'ai pas là, je le trouve pas là, je l'ai trouvé pourtant là. J'ai pas le montant, j'ai pas le... Ah là, là. Ah, il donne pas le montant là. Le président américain avait déjà évoqué un... Pardon, désolé. Un achat du Groenland au cours de son premier mandat en 2019. Trump avait comparé cette hypothèse à une grande transaction immobilière. Mais j'ai pas le prix. Merci McLepi pour le raid, c'est adorable, vous étiez sur quoi? Quelqu'un a trouvé 200 milliards. Ok. Bon, c'était un truc comme ça. C'était un chèque, gros chèque. Ou peut-être que Trump n'avait pas évoqué de montant d'ailleurs, en disant je vais faire un chèque. Salut notre bad viewer. Bon partiel. Bon courage. Ok. Bon bref, il avait déjà proposé de faire un chèque. En 2019. Donc, sur quoi pourrait déboucher cet ultimatum? Une énième promesse d'achat? Une nouvelle agression? D'après le Wall Street Journal et le New York Times, Marco Rubio a fait savoir auprès d'élus que la première option était privilégiée. Le rachat. Comme pour maintenir la fièvre, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré mardi que l'administration Trump évoquait plusieurs options. Putain, la porte-parole de la Maison-Blanche, elle a déclaré, utiliser l'armée américaine est toujours une option. Les gars, c'est pas des vues de l'esprit, c'est pas... Oui, ça c'est une estimation du Washington Post, merci à Mrouflard, ouais. Mais c'était pas le prix du... C'était pas le montant du chèque que Trump avait évoqué. Je crois qu'il n'avait pas évoqué de montant, finalement. Mrouflard dit qu'en août 2019, le Washington Post avait estimé le prix d'achat du Groenland potentiellement entre 200 millions et 1700 milliards de dollars, avec une estimation médiane de 42 milliards de dollars. Aujourd'hui, il se dit que les États-Unis pourraient proposer un chèque, c'est ce que j'ai lu, de 50 milliards de dollars. Là, vous avez comme la porte-parole de la Maison-Blanche qui vient de dire que parmi les options étudiées par les États-Unis, il y a utiliser l'armée américaine, toujours une option. C'est la Maison-Blanche qui le dit. C'est la Maison-Blanche qui le dit. Au Congrès, un tel scénario fait bondir les démocrates et n'enchante pas plus une partie du camp républicain. Ça, c'est intéressant. Au Congrès, un tel scénario fait bondir les démocrates et n'enchante pas plus une partie des républicains. Même Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, fidèle parmi les fidèles de Trump, a estimé que ça n'était pas approprié. D'autres voient dans ce jeu de dupes une manœuvre de diversion destinée à faire oublier que le but initialement recherché à Caracas n'a toujours pas été atteint. Waouh, alors ça va trop loin. Ok, alors Trump parlerait du Groenland pour faire oublier que finalement, ce qu'il a fait au Venezuela, c'était pas fou. Oh là là, j'en peux plus, moi. Steve Bannon, théoricien MAGA, mais je crois qu'il est fâché Steve Bannon avec Trump maintenant, non ? Appelle cela « inonder la zone de merde ». Je cite. C'est-à-dire noyer les médias de déclarations fausses et outrancières en vue de détourner l'attention sur l'essentiel. Waouh. La méthode fonctionne à merveille. Quoi qu'il en soit, Trump ne dispose pas d'un blanc-seing pour annexer le Groenland. Un sondage dévoilé en août dernier outre-Atlantique indique que seuls 7% des Américains soutiendrait une prise de contrôle militaire du Groenland. 7%. Un quart d'entre eux approuverait l'hypothèse d'un achat, par contre. Oui, certains commentateurs, tu as raison, Omoyili parle aussi de diversion contre les fichiers Epstein. Ouais. Accaparer le Groenland à coups de billets verts et de lingots d'or est une vieille lubie des États-Unis. Voilà, c'est pas la première fois, hein. En 2019, du temps de son premier mandat, Trump avait déjà ouvert les enchères, essuyant un refus catégorique des Danois et des Groenlandais. Selon le porte-parole de la Maison-Blanche, le président et son équipe discutent activement d'un achat du territoire. Voilà. Moi, j'ai vu passer le chiffre de 50 milliards. La seconde hypothèse, celle d'un recours à la force, provoquerait des conséquences. Des conséquences de quoi ? en cascade. Bien que semi-autonome, le territoire est placé sous la souveraineté du royaume du Danemark, donc d'un pays membre de l'OTAN. Comme le rappelle Pierre Haroche, qui est un universitaire, qui est un chercheur, si une guerre était déclarée entre États membres de l'Alliance Atlantique, États-Unis, Danemark, cela veut dire au minimum que l'OTAN est complètement sur la touche et qu'aucune opération militaire ne peut avoir lieu, plus avoir lieu via l'Alliance. On se demande bien comment l'OTAN pourrait survivre à ça, quoi. Draco, merci pour les subs que tu as envoyés à la streameuse hier soir. J'ai vu. Le locataire de la Maison Blanche n'a aucune raison politique pour justifier l'intervention au Groenland auprès de son électorat, comme il a pu le faire pour le Venezuela, estime Pierre Haroche. Le prétexte sécuritaire. Alors Trump, pour motiver la prise de contrôle par les États-Unis du Groenland, il dit « Ouais, mais c'est parce que le Groenland, il est menacé par les Chinois et les Russes, et le Danemark et l'Europe ne font pas ce qu'il faut pour protéger le Groenland des Russes et des Chinois. » Ça, c'est l'argument de... Merci Draco, de Trump. L'Humanité écrit... Le prétexte sécuritaire qu'il invoque à l'envi en réponse à des navires russes et chinois qui navigueraient dans les eaux groenlandaises relève du pur fantasme. Ce même prétexte utilisé à l'échelle de l'Arctique sert une priorité stratégique. Trump peut bien ironiser sur l'investissement dans un attelage de chiens de traîneau. Le Danemark a alloué la somme inédite de 12 milliards d'euros à la défense du Groenland en 2025 et investi dans les navires d'inspection incitant de nouveaux drones. Trump dit que le Danemark est incapable d'assurer la sécurité du Groenland. Pourtant, le Danemark consacre, je crois, 40% de son budget militaire au Groenland. Voilà, et a notamment alloué 12 milliards d'euros à la défense du Groenland. Commentaire de Trump sur ces 12 milliards depuis Air Force One. C'est un truc que vous retrouverez sur Internet. Il l'a prononcé il y a quelques jours. Voilà. Ah oui, c'est vrai, ils ont investi dans un nouvel attelage de chiens de traîneau. À un moment, c'est fatigant, en fait. Le problème, c'est que... Enfin, parfois, ça fait le clown, c'est bozo, quoi. Le Danemark vient d'investir 12 milliards pour renforcer la sécurité du Groenland, et t'as bozo sur la passerelle d'Air Force One qui dit « Ah ouais, il paraît qu'ils ont acheté un nouvel attelage de chiens de traîneau. » En fait, le mec est quand même le président de la première puissance mondiale, quoi. C'est ça aussi. Après, les gens me disent « Ah oui, mais tu respectes pas Trump. C'est quoi ton anti-Trumpisme primaire ?» Non, mais les gars aussi... Vous voyez, c'est épuisant qu'on est en 2026, quoi. C'est épuisant. Comment vous voulez prendre au sérieux, quoi? Je ne suis pas d'accord pour dire que la sécurité dans l'Arctique n'est pas assurée, rétorque la première ministre danoise Mette Frederiksen. Mais le président républicain, donc Trump, pourrait tout autant trouver un intérêt à rester dans le cadre légal. Rien ne dit que l'armée américaine va intervenir au Groenland. Hein, où ils ont déjà des bases, d'ailleurs, hein, militaires, d'ailleurs. Ah bah, d'ailleurs, l'Humanité le dit, les États-Unis sont déjà déployés militairement sur l'île depuis des décennies, notamment sur la base spatiale de Pitufik, en vertu d'un acte de défense signé avec les Danois en 1951, et renouvelé plusieurs fois depuis. Cet accord permet à l'armée américaine d'utiliser cette zone de défense à condition de ne pas empiéter sur la souveraineté danoise. Dès lors, rien n'empêche Washington, en tout cas légalement, de renforcer ses positions à travers l'envoi de troupes et la réouverture d'une ancienne base parmi toutes celles qui ont été implantées du temps de la guerre froide. Oui, la pilou, moi aussi je pensais qu'il restait qu'une seule base américaine, mais quelqu'un me disait hier plusieurs bases. Et je comprends par l'Humanité, en fait, c'est qu'il y a une base et plusieurs qui ne sont plus utilisées, mais qui pourraient être réouvertes. Mais tu as raison, je pense qu'il n'y en a qu'une d'active. Voilà, Nuno nous précise, les États-Unis avaient 17 bases lors de la guerre froide, ils en ont fermé 16 pour en conserver une avec juste 150 soldats. Ah bah c'est ce que dit également l'Humanité. Voilà, la base de Pitufik, c'est 150-200 soldats maximum. Voilà. S'ils en envoient demain 1000, 10 000, 100 000, on comprend très bien la logique d'invasion. Mais quelle que soit l'ampleur de ce redéploiement, il faudrait l'accord du Danemark. Reste l'option d'un deal qui serait proposé aux Groenlandais. Donc ça, c'est le deal de Washington proposé non pas au Danemark, mais aux Groenlandais, les habitants. Par la matière de Jeff Landry, qui est qui est le gouverneur de la Louisiane, qui a été fraîchement nommé envoyé spécial des États-Unis au Groenland, un accord d'association qui a déjà vu le jour avec plusieurs nations du Pacifique, qui permettrait aux Américains d'opérer librement au Groenland en échange de grosses sommes d'argent, le tout dans le dos des Danois. Pour l'heure, cette offre ne semble pas prendre auprès des partis indépendantistes de l'île, parce qu'il y a des partis indépendantistes qui souhaitent l'indépendance du Groenland, du Danemark. Alors évidemment, les Américains se sont dit qu'ils pouvaient jouer là-dessus, mais a priori, l'UMA dit que les partis indépendantistes groenlandais ne sont pas tentés par ce deal américain. Pour l'heure, cette offre ne semble pas prendre auprès des partis indépendantistes, en témoigne l'échec de la visite fortuite du vice-président américain Jed Evans sur place en mars dernier, juste après les législatives. En attendant de nouvelles annonces, les visées de Trump inquiètent fortement les Européens. L'impuissance est de mise. Ils n'ont pas intérêt à présenter ce sujet comme un affrontement entre puissances car ils ne sont pas en position de force sur ce terrain, dit Pierre Haroche à propos des Européens. Ils peuvent en revanche se présenter comme les défenseurs des intérêts de la liberté du peuple groenlandais. C'est ce que la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne, le Royaume-Uni ont tenté de faire mardi dans une déclaration de soutien au Danemark, appelant au respect des principes de la Charte des Nations Unies, notamment la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'inviolabilité des frontières. Côté autrichien, le vice-chancelier et vice-président du Parti Socialiste Européen, Andreas Babler, a exhorté l'Union Européenne à préparer des sanctions dissuasives. Voilà où on en est, du Groenland. En vrai, c'est passionnant. En vrai, c'est passionnant. Je vous lis. Je vous lis. Passionnant, mais pas sûr de vouloir y vivre en ce moment. Oui, bon, c'est oui. Après, tout va bien se passer. Vous savez, évidemment, c'est bizarre de dire ça, mais l'histoire de l'humanité a été marquée par des heures bien plus sombres que celles que nous vivons aujourd'hui. Moi, je suis là pour vous raconter tout ce qui ne va pas tous les matins, de me lamenter et de nous lamenter ensemble sur la marche du monde et des crises et des conflits et des guerres. Mais si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'histoire, avec un grand H, et pas l'histoire des derniers tweets de Trump, l'humanité a connu des heures bien plus sombres qu'aujourd'hui, quoi. Ça pourrait être pire. C'est pas très rassurant, ça, c'est mal. Oui, je sais. Oui, j'entends. Ouais, comme le dit De Brévoort, après, si de notre vivant, on pouvait ne pas battre le record, oui, c'est pas faux. Non, pas l'histoire du grand H, l'histoire avec un grand H, Ivy Cop, bordel. Samuel, est-ce que de temps en temps tu peux donner des infos qui font remonter le moral? Oui. Point d'exclamation. Samedi dans le chat. Voilà, quelqu'un va le faire parce que vous avez des doigts d'or, des doigts qui filent telle la lumière. Voilà. Bienvenue dans Sam dit jeu de mots de fou des bonnes nouvelles. 5 ans, je vous propose une revue de presse sur Twitch, la matinée Étienne, dans laquelle je vous rapporte hélas beaucoup des mauvaises nouvelles qui émaillent la marche du monde. Alors pour contrebalancer un peu et continuer d'espérer dans le genre humain. Chaque samedi, depuis samedi dernier, je vous propose une revue de presse des bonnes nouvelles. Voilà. Et pour ceux qui tiennent vraiment mauvaises nouvelles, rendez-vous du lundi au vendredi. Voilà. Tous les samedis, depuis samedi dernier, après-midi, a priori, je vous fais une revue de presse des bonnes nouvelles. Bon, pour l'instant, pour la prochaine édition, je n'ai pas de quoi faire 3 heures. Hein. Mais je continue à chercher. On passe sur le sujet suivant, enfin on part toujours de Trump, sur la stratégie Trump questionnée. La stratégie Trump questionnée, mais questionnée par où? Mais aux États-Unis, tout le monde aux États-Unis n'a pas le petit doigt sur la couture du pantalon sur la politique intérieure et extérieure de Trump. Lisons Le Monde. J'ai bien envie de faire un petit café. Vous m'autorisez à prendre un petit café? Je peux faire un petit café rapide? Et vous laisser en comment on dit, vous laisser en suspens comme ça 30 secondes? Vite fait, pour me relancer un petit peu. Vous êtes gentil. Faites-moi un café aussi. Pas de pub. On met pas de pub là. Pas de pub sur cette chaîne. Parlez entre vous plutôt. Allez. Profitez de la vue sur la chaise là. J'arrive. J'arrive pour 10 secondes. Dix secondes, quel menteur! Dix secondes, mes fesses! Dix secondes, mes fesses! Mais quel menteur! Par contre, j'ai un café maintenant. Ah, ça, c'est cool! Green Plant. Samuel, si tu mets des pubs pendant tes pauses, ça diminue grandement les chances qu'on ait des pubs pendant la lecture de presse. Ah, ben non, tu peux pas avoir de pubs pendant la revue de presse, je les ai supprimés. En revanche, si je mets des pubs pendant les pauses, ça va supprimer, ça c'est vrai, les pubs pour les gens qui nous rejoignent, le pré-roll que tu ne peux pas enlever. Quand tu déclenches une pub pendant une pause comme ça, ça va supprimer pour partie les pubs de pré-roll, celles que je ne peux pas enlever. En revanche, si tu es là par exemple depuis une heure, tu ne peux pas avoir de pub sur ma chaîne. J'ai tout enlevé. C'est à zéro. Je gagne 0€ avec la pub. Parce que je trouve qu'il y a trop de pubs sur Twitch, ça crée trop d'interruptions, ça abîme la qualité du live, voilà. Et donc il y a celle que je peux pas enlever, celle du début quand vous arrivez, celle-là je peux pas l'enlever, c'est impossible, mais après vous en avez zéro, jamais, c'est impossible. Par contre, si je mettais des petites pauses pubs comme ça quand je vais prendre un café par exemple, effectivement ça enlève le pré-roll pour ceux qui arrivent, je crois. Le problème, c'est que une pub, c'est remarque, on peut mettre moins de 2 minutes, mais 2-3 minutes, moi je m'abstiens pas de 3 minutes hein, pour me faire un café. Voilà. Donc tu peux supprimer toutes les pubs hors pré-roll. Oui. Bah moi j'en ai pas. Tu peux supprimer toutes les pubs hors pré-roll. Moi, je vois un petit peu sur les réseaux, je me promène un petit peu. Un des principaux reproches faits à Twitch, c'est la pub, en fait. Certains estiment qu'il y a trop de pubs sur Twitch. Moi, j'ai entendu ça, donc du coup, je l'ai supprimé. Alors du coup, ça, bon, on se prive d'un revenu, hein, mais bon, on essaie de faire autrement, quoi. Tu vois? Voilà, je suis pas sûr que mettre des pauses pub, ça supprime le pré-roll. Tu vois, Yapou me dit ça supprime uniquement le pré-roll. Si tu en mets assez, il va falloir faire plus de pauses, plus longues pour que ce soit rentable. Donc tu vois, voilà. Donc c'est pas forcément la bonne solution en fait. Il faut bien une méthode de financement, même si j'aime pas qu'un business model se base sur la pub, dit King Julian. Bah, il y a les subs, il y a les soutiens. Je trouve ça plus sain. Et puis, moi, je m'en cache pas, il y a les OP. C'est-à-dire que moi, je préfère financer ma chaîne et mes projets par les sponsors, le sponsoring, que par la pub. Je préfère. Après, on pourrait me dire, bah non, c'est naze, je préférerais plus de pubs et pas d'OP. Alors ça, c'est un sujet. C'est un, tu vois, c'est après, je suis, on, chacun fait comme il veut, quoi. Moi, j'ai fait ce choix. Bien sûr, Trade Republic, c'est une OP, par exemple, de Nubi One. Bien sûr, bah, c'était marqué, hein, c'était collaboration commerciale, c'est transparent. Hein. Quand récemment, il y a le patron de Trade Republic Europe qui est venu à la fin d'une revue de presse pour parler finance et économie. Bon, bah, dans l'intitulé du titre, c'était marqué, tu sais, quand tu crées le live, là, quand tu fais la notif, contenu promotionnel, tu as une case à cocher. Après, tu as le hashtag publicité ou collaboration commerciale pendant toute la séquence. Si tu étais là, tu l'as vu ça. Les OP, en plus, les OP, on ne te les impose pas, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je trouve bien avec les OP. C'est-à-dire que, prenons cet exemple, par exemple, de Trade Republic, ou n'importe quel OP d'ailleurs. Comme c'est transparent, j'espère que je suis transparent et que vous le voyez bien quand je fais une OP, quand même. Normalement, c'est carré. Normalement, c'est transparent. Eh bien, bah, libre à vous de ne pas la consommer, quoi. Tu vois, en général, c'est une séquence qui peut être assez longue, tu vois. Et tu dis, bah, tu vas avoir une autre chaîne. Alors que si tu es sur un contenu qui t'intéresse, bah, les 30 secondes ou les 2 minutes de pub, tu vas te les prendre, en fait. Hein. Tu vas les rester, quoi. Certains disent, on vient d'avoir une pub. C'est-à-dire que, comment, vous êtes en train de me dire que Twitch met des pubs? Alors même que moi j'ai tout enlevé, c'est-à-dire qu'ils maintenant ils imposent des pubs, Aquino dit non. Sans te donner les sous? Sérieux? Non, il y a plein de gens qui me disent qu'ils n'ont rien eu. DDBK dit j'ai pas eu de pub de la matinée. Bizarre, j'ai pas eu une seule pub depuis le début. Alors c'est peut-être des F5, certains disent c'est peut-être des F5. Voilà. En tout cas, si Twitch met de la pub, malgré le fait que je les ai enlevés, finalement, il y a un problème. Ouais. Parce que dans ce cas-là, il faut donner les sous. Hein. Ok. Ah, il y a Yomi Klumsi qui dit ne sait pas faire la différence avec un pré-roll quand tu refresh, par exemple. Ok. Ou que tu changes de support, téléphone, ordinateur. Bon, ça je sais pas. En tout cas, moi je peux vous garantir que je touche aucun revenu de la pub sur Twitch. Je préfère faire autrement. Let's go. On revient à Trump peut-être? Je sais ça. C'est un vrai débat intéressant. De Carasu dit, Samuel, Twitch a énormément de mal à se financer. Twitch perd de l'argent, hein? Twitch, propriété d'Amazon, perd de l'argent. Voilà. C'est très inquiétant parce qu'on est tous attachés à Twitch. Enfin, je trouve, on pense tous que c'est un outil génial qui crée communauté, qui nous permet de discuter, de partager nos passions. Voilà. Twitch, c'est pas très rentable. Donc, régulièrement, on se demande si Amazon ne va pas arrêter les frais un jour. Ou... Voilà. Alors, on me dit que c'est faux. Depuis quelques années, Twitch est rentable. Twitch a arrêté de perdre de l'argent, c'est vrai? Ok. Moi, j'ai l'info qu'ils n'en gagnent pas ou qu'ils. C'est ce que me disaient les responsables de Twitch France. Et voir qu'ils n'en gagnent pas beaucoup, quoi. Il y a Odaris qui me dit, sans avoir mis au courant les streamers, Twitch met de la pub cachée par le biais de bannières publicitaires invasives. Okay. Merci Darsaliot pour les abonnements offerts à la communauté Régale. Alors, Kashiro-san vous demande vos sources. Diesel dit selon le site Business Apps, voici une source, Twitch a généré un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars en 2024. Alors, un chiffre d'affaires n'est pas un bénéfice, hein, mais ça, tu le sais. Ses recettes publicitaires s'élèveraient donc à environ 600 millions de dollars si on prend en compte la répartition du chiffre d'affaires avancé par son CEO. Oui, mais les amis, un chiffre d'affaires, n'est pas un bénéfice. Enfin, quand même. Bon, un, mon diesel. C'est pas ça que tu voulais dire, quand même. Tu peux avoir faire du chiffre d'affaires et être déficitaire. Non, non, mais est-ce que vous avez une source, une source, les modos, vous auriez ça? N'hésitez pas à envoyer au modérateur, parce que vous ne pouvez pas mettre de lien dans le chat. Mais une source fiable qui dit que Twitch gagne de l'argent. Parce que là, pour l'instant, j'en ai pas la démonstration. Vous êtes plusieurs à me dire qu'on, selon les chiffres au 30 juillet 2024, par exemple, c'est pas très très vieux, Twitch n'était pas rentable. J'ai pas l'info pour l'instant. Ah. J'ai énormément de mal à croire que Twitch soit vraiment négatif, dit Rax. Oui, mais c'est pas une question de croyance, c'est une question de où sont les chiffres. Ok, donc bon. Ouais, donc l'info qui semble sortir de cet échange, c'est globalement, c'est que Twitch ne gagne pas de l'argent. Fabs, t'as vu plusieurs articles récemment là-dessus en disant que Twitch perd de l'argent. Alors, et s'il en gagne, c'est pas beaucoup. Donc, pour revenir au message qui nous intéressait, clairement, Twitch a un problème de financement, depuis toujours. Et Twitch appartient à un groupe Amazon qui est pas là pour. C'est pas une ONG, quoi. Donc à un moment, ils peuvent. Voilà, il y a énormément de bandes passantes, de serveurs API, exactement. Source RTBF 2024. Merci Diesel. Selon une étude publiée par le Wall Street Journal, Twitch n'a jamais été rentable. Pire, juillet 2024, c'est pas si vieux quand même. À cause de ses pertes, ses employés craignent que la plateforme de streaming devienne une nouvelle marque zombie d'Amazon, c'est-à-dire une marque qui ne couvre pas ses dettes et donc disparaît. Merci Diesel. Le seuil critique est annoncé pour 2025. D'ici là, Amazon devra trouver des solutions pour limiter la casse. Cette mauvaise nouvelle n'enchante pas évidemment ses travailleurs. Donc, si on est attaché à ce modèle, enfin à cet outil Twitch, effectivement, il faut qu'il trouve un moyen de gagner de l'argent. Il y a comment s'appelle un créateur de contenu, YouTuber, qui a été streamer aussi, mais je ne sais pas s'il stream toujours, qui s'appelle, vous savez, qui est ingénieur en IA, qui a écrit plusieurs tweets là-dessus récemment. Anne Yaris, je crois. Vous voyez de qui je veux parler? Défendre Intelligence, voilà. Sur X, il a fait plusieurs tweets sur le sujet depuis quelques jours, là. Et donc, il parle du modèle économique de Twitch. Et lui, il estime que Twitch est un peu en train de mourir. Il a fait des tweets là-dessus en disant, ouais, ça marche plus. Twitch, c'est un truc un peu qui est en train de dead et tout. Voilà. Et donc, les gens lui disent, ouais, mais Twitch, t'as raison, c'est de la merde, il y a trop de pubs. Et lui, il répond à ces gens, c'est intéressant, mais non, c'est l'inverse. Il faudrait mettre beaucoup plus de pubs. Il faudrait mettre beaucoup plus de pubs pour que Twitch puisse gagner de l'argent. Ouais, Defend Intelligence, c'est un ingénieur en IA qui est un créateur de contenu. Donc la remarque du viewer tout à l'heure, elle est vraie. Les OP dont moi je parle et qui me permettent de faire tenir mon modèle économique ici, elles ne sont accessibles qu'aux gros streamers, quoi. Et moi je serais triste parce que je trouve que l'outil est génial. Je trouve que l'outil est génial. Et je serais très embêté qu'à un moment, l'outil disparaisse, quoi. Alain écrit, après une entreprise peut être déficitaire si elle permet à d'autres aspects de gagner de l'argent. Par exemple, Amazon Prime rapporte à Amazon. De plus, Twitch ne vend que de la pub alors qu'il devrait plus tourner vers Amazon qui vend des jeux, son service Luna, etc. Brisby dit, donc Samuel, il faut remettre les pubs. Mais voilà, mais le problème, c'est que vous êtes très nombreux, les utilisateurs de Twitch, à estimer qu'il y a beaucoup trop de pubs déjà. Hein? Manfrank 2, oui, mais avec les pubs actuelles sur Twitch, j'ai déjà réduit fortement ma conso de Twitch, c'est insupportable. Donc, s'il y en a plus, je ne consommerai plus du tout. Alors, on est dans un cercle très vicieux, quoi. Et puis, Twitch est concurrencé aussi. Hein. Il y a d'autres plateformes, bien sûr. Defend Intelligence, dans sa série de tweets, vous irez voir si ça vous intéresse, dit par exemple que le gagnant de tout ça, c'est YouTube. que Twitch est concurrencé, alors par Kick, par TikTok Live, par YouTube Live, et que ce, au-delà du problème économique, c'est aussi la concurrence d'un outil qui est concurrencé par d'autres plateformes, quoi. Merci Kenawi. Merci Kenawi. Merci encore d'Arceliot. Merci Métuis pour ton message. Il y en a, ils balancent des 3 minutes de pub tous les 30 minutes, ils ont 200 viewers, c'est de l'abus. Monte. Mais oui, mais mets-toi à leur place. Moi, j'ai choisi de me passer de la pub, donc c'est plusieurs milliers d'euros par mois. Parce que je trouve que du coup, ça fait des streams plus sympas. Mais je peux le faire parce que j'ai accès aux OP, aux collaborations commerciales. Voilà. Les streamers dont tu parles à 200 viewers, 300 viewers, ce qui est déjà pas mal, hein, ils n'ont pas forcément accès aux OP de la même manière que moi. Donc, ils n'ont pas forcément, s'ils veulent en vivre, comme dit Skyrim, ils n'ont pas forcément le choix. Hein? Quand tu n'as pas le nombre suffisant de subs et que tu n'as pas accès aux OP comme les gros streamers peuvent avoir, qu'est-ce qui te reste? Tu peux pas leur lancer la pierre, hein. Hein, vous avez certains gros streamers, je crois que PA en a parlé et d'autres, hein, qu'on dit en, dans un souci de transparence combien la pub le rapportait chaque mois. Donc PA, c'est quelqu'un qui fait des audiences bien plus importantes que moi, mais les chiffres sont très très impressionnants, quoi. Pardon, parlons de cette parenthèse, mais c'est pas inintéressant. On est sur Twitch, donc c'est intéressant de parler de ce modèle économique, surtout si ce modèle économique, hein, il est menacé, bien sûr. Hein. On revient à Trump. Excusez-moi. Pardon aux amis qui nous écoutent en podcast, qui sont pas forcément des viewers de Twitch, mais je trouvais aussi important d'en parler. Alors, la stratégie impérialiste de Trump en question, c'est le fait qu'aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas forcément derrière Trump. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain multiplie les actions militaires et les coups de force à travers le monde. Cet impérialisme débridé suscite une inquiétude croissante parmi les pays alliés des États-Unis, mais aussi au sein du Congrès américain. Nombre d'experts s'interrogent notamment sur le peu de cas que Trump fait du jour d'après. Voilà. Les Européens affichent leur union, leur détermination pour tenter d'influencer sur la politique américaine. À Washington, donc, question sur la méthode Trump. Avec des intentions de l'administration, notamment sur le Groenland, qui suscitent la perplexité ou le rejet d'élus du Congrès. Notamment certains républicains qui devraient être dans le camp de Trump. À mesure que la stupeur se dissipe, l'opération Absolute Resolve, ou détermination absolue, qui a conduit à l'enlèvement de Maduro, soulève de plus en plus de questions aux États-Unis. Pas tant à propos de la chute du président du Venezuela, considéré comme un dirigeant autoritaire et corrompu que personne ou presque ne défend outre-Atlantique, hein. Mais si son arrestation conduite par les forces spéciales a fait l'objet d'une préparation minutieuse, la suite des événements apparaît beaucoup moins anticipée. Merci MMG. Comment Donald Trump compte-t-il diriger le Venezuela à distance alors que le régime chaviste reste aux commandes? La question qu'on a évoquée tout à l'heure. Son administration peut-elle continuer à opérer légalement sous le couvert de la lutte contre le trafic de drogue, qui apparaît de plus en plus comme un prétexte à l'accaparement des réserves de pétrole du pays? Et plus important encore, l'impérialisme débridé du président et de son conseiller Stephen Miller, qui cible aussi Cuba, la Colombie, le Mexique et surtout le Groenland, est-il désormais la stratégie officielle du pays? La question du sort politique du Venezuela est symbolique des ambiguïtés de l'administration américaine. L'appareil maduriste a certes été décimé, mais ses branches demeurent bien vives. La vice-présidente, qui a été nommée temporairement à la tête de l'État, Delcy Rodriguez, est une chaviste convaincue. Elle est sur la liste des personnes sanctionnées par les États-Unis depuis 2018, tout comme son frère George, qui dirige l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, considéré comme l'homme fort du gouvernement, figure pour sa part sur le document de mise en accusation pour trafic de drogue de la justice américaine qui vaut aujourd'hui à Maduro et son épouse de dormir en prison, à New York. Voilà. Une récompense de 25 millions de dollars est promise pour sa capture. Il faut ajouter à ce trio le fils unique de l'ancien président vénézuélien, député à l'Assemblée, Nicolas Maduro Guerra, baptisé Nicolasito ou le prince, c'est contre lui que les charges de la justice américaine pour trafic de cocaïne semblent les plus précises. Interrogé sur la contradiction apparente entre l'enlèvement des époux Maduro et le fait de vouloir désormais composer avec ceux qui sont désignés comme ses complices, c'est un peu bizarre, le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est agacé sur la chaîne CBS. Qu'a-t-il dit ? Ils se plaignent déjà de cette opération. Imaginez les protestations que nous aurions de la part de tout le monde si nous devions réellement y rester 4 jours pour capturer 4 autres personnes. Autre sujet de gêne pour les responsables américains, la grâce accordée le 1er décembre 2025 par Donald Trump à qui ? À l'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, condamné aux États-Unis en 2024 à 45 ans de prison pour trafic de drogue avec un dossier extrêmement chargé. Mais pourtant, il a été gracié le 1er décembre 2025 par Donald Trump. Donald Trump qui est en guerre contre le trafic de drogue qui inonde le marché américain. Et il a gracié ce gars, condamné par la justice américaine à 45 ans de prison pour narcotrafic. Voilà. Pourquoi les États-Unis, se demandent le monde, déchaînent-ils les enfers sur Nicolas Maduro accusé de narcoterrorisme ? Tout en se montrant clément à l'égard d'un autre dirigeant latino-américain détenu pour les mêmes faits. Je pense que c'est une bonne question. L'explication principale semble tenir à la sympathie éprouvée par le président américain à l'égard de Juan Orlando Hernandez, en poste à l'époque de son premier mandat, et au fait qu'il a été condamné sous la présidence du démocrate Joe Biden. Questionné à plusieurs reprises sur le sujet durant le week-end, Marco Rubio a botté en touche, affirmant qu'il ne connaissait pas bien le dossier, lui qui est pourtant un expert de la zone. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Selon le New York Times, les contradictions apparentes sur le dossier vénézuélien ont une explication prosaïque. Ah, enfin. L'administration américaine n'a pas vraiment d'autre choix. L'opposition locale a... Pourquoi Trump n'est pas allé plus loin en dégommant le régime plutôt qu'uniquement le président, et surtout en faisant tout pour que l'opposition au Venezuela puisse prendre le pouvoir et mettre en place un régime démocratique. Pourquoi ? Alors, selon le New York Times, l'explication est prosaïque, l'administration américaine n'a pas d'autre choix, l'opposition locale incarnée par le prix Nobel de la paix 2025, Maria Corina Machado, n'a pas été jugée, je vous le disais, par la CIA, capable à même d'incarner une offre politique crédible. Louée pourtant dans le passé à plusieurs reprises par Trump, elle aurait en réalité agacé les diplomates américains en exagérant à plusieurs reprises l'état de déliquescence du régime de Maduro et en restant évasive sur les plans en cas de bascule du pouvoir. Dans une interview accordée à Fox News, le 5 janvier, Madame Machado a joué son va-tout, célébrant Trump, proposant de partager son prix Nobel avec lui, mais ce dernier semble avoir écarté cette option, du moins pour le moment. Affirmant en conférence de presse qu'elle n'a ni le soutien ni le respect du peuple vénézuélien. Dès lors, l'administration Trump demeure particulièrement élusive concernant un éventuel processus démocratique au Venezuela. Le plan à moyen terme, quel est-il, semble donc d'obtenir gain de cause, notamment sur l'accès aux réserves du pétrole pour les entreprises américaines, en faisant parallèlement pression sur l'appareil chaviste avec la menace d'une deuxième intervention militaire. Alors je vous le disais, il y a beaucoup de démocrates qui condamnent tout ça. Il y a aussi certains élus républicains qui font de même, qui ont exprimé leur désaccord face à la prédation d'un territoire associé à l'Union européenne et à l'OTAN. Je parle du Groenland. Le sujet de l'annexion du Groenland en place, qui marquerait probablement la fin de l'Alliance Atlantique en place depuis la Première Guerre mondiale, pourrait être sérieusement débattu au Capitole dans les jours qui viennent. On rappelle que la FIFA a donné son prix de la paix 2025 à Trump. Oui, Robobov, c'est un fait, c'est une actu. Il n'a pas eu le prix Nobel de la paix, mais la FIFA lui a décerné son prix de la paix. C'est quoi, Fédération internationale de football, c'est ça, hein? Le prix de la paix, le fameux. Eh oui. Voilà. Eh, mais on n'a pas fini de reparler du mondial de foot aux États-Unis d'ailleurs. Alors, certains n'avaient pas l'info hein, sur le fait que la FIFA a donné son prix de la paix à Trump. Eh oui. Eh oui. Alors, dans ce blow, la stratégie de Trump questionnée, la parole dans Libération, je crois que c'est le premier article de Libé qu'on lit ce matin. Ah, bah, je l'avais pas, tiens, je ne l'avais pas rajouté d'ailleurs. J'aurais pu le mettre là. Ouais, je vais vous le mettre tout de suite. Voilà, il n'y avait pas que Le Monde, il y avait aussi Libération sur le sujet. Hop, magie. Validé, voilà. Libération sur le fait que bah, la cote de popularité aux États-Unis de Trump elle est en train de baisser. Aux États-Unis, l'impopularité de Trump vient de sa politique économique surtout. Le Venezuela passe après. C'est Amy Green, qui est une spécialiste des États-Unis, qui le dit à Libération, qui explique que les Américains sont préoccupés par l'urgence sociale dans leur pays et économique, et que l'interventionnisme de Trump à l'international finalement a des conséquences assez limitées, notamment sur sa popularité. Avec 8 pays bombardés en un an au pouvoir, Donald Trump est le président qui a lancé le plus d'opérations militaires de l'histoire américaine. Dans le même temps, sa popularité a baissé de 8 points, passant de 47% lors de son retour aux affaires en janvier à 39% à la mi-décembre. C'est pas ridicule 39%, hein. Tous les présidents, en général, tous les présidents subissent l'érosion de leur popularité au fil du mandat. Et souvent, les élections de mi-terme, d'ailleurs, sont des élections un peu de sanction, quoi. Voilà. Mais la popularité est en baisse. On passe de 47 à 39%. Son interventionnisme forcené à l'international en ce moment, est-ce qu'il entre en contradiction avec sa promesse de campagne de mettre le pouvoir d'achat des Américains au cœur de sa politique? Dans son livre « L'Amérique face à ses fractures », Amy Green, donc chercheuse, décrit un empilement de souffrances qui concerne de plus en plus d'Américains. Elle décrit pour Libé l'impact limité des opérations militaires de Trump dans l'opinion américaine et les conséquences pour les relations internationales de la capture de Maduro. Comment l'électorat de Trump, question importante, perçoit-il l'opération militaire américaine au Venezuela? Il y a deux réactions principales au sein de l'électorat MAGA. Make America Great Again, qui représente toujours pour lui une base de soutien solide. La première, par exemple, c'est celle de la représentante Marjorie Taylor Greene, qui critique depuis le début de l'année les interventions militaires à l'étranger. Voilà. Elle estime, comme d'autres républicains, que ce n'est pas sur ce programme que Trump a fait campagne et préférait que le président se concentre sur la vie intérieure du pays. La seconde réaction, ce sont les électeurs les plus indulgents de MAGA avec le président, qui estime qu'il faut lui laisser le temps de faire vivre sa vision pour défendre les intérêts des États-Unis. Et qu'il lui reste encore 3 ans à la tête du pays. Ce qu'on oublie parce qu'il est tellement actif qu'il se passe plein de choses, mais il lui reste encore 3 ans, hein. Un mandat de président américain, c'est court, 4 ans, mais il reste encore 3 ans. Presque 3 ans. Selon le baromètre Reuters Ipsos, sa cote de popularité a chuté de 8 points entre janvier et décembre, ce qui est pas tant que ça en fait. Hein. Est-ce le signe que les opérations militaires lui ont fait perdre des électeurs? Aujourd'hui, Trump est impopulaire, dit la chercheuse. Si la base MAGA et les républicains lui restent globalement fidèles, la société américaine dans son ensemble le rejette. Son impopularité vient d'abord de sa politique économique qui n'a pas réglé l'urgence sociale. Ceux qui ont fui le Parti démocrate en 2024 estimaient que Trump serait meilleur que Biden pour réguler l'inflation. Or, il n'en est rien. À gauche et à droite, c'est vrai qu'il a notamment été élu sur cette promesse, hein, qu'il allait réduire l'inflation. À gauche et à droite, on constate un empilement de souffrances pesant toujours plus sur les Américains, les salaires qui stagnent, les frais de santé qui explosent, l'expiration des subventions de l'Obamacare qui va priver environ 4 millions d'Américains de couverture maladie, les prix du logement devenus inabordables. la maison brûle, et pour les foyers américains, eh ben, le Venezuela, chut, ça passe après. Ce mécontentement s'est déjà fait sentir dans les élections de novembre 2025 qui ont consacré des gouverneurs et des maires démocrates. Peut-être le signe que les électeurs tentés par le Trumpisme en 2024 reviennent au bercail, ne constatant aucune amélioration, voire une dégradation de leur vie quotidienne. Question de libération à la chercheuse. Et les rapprochements de Trump avec Poutine ? L'intervention de Trump au Venezuela est plutôt de nature à frustrer les ambitions géopolitiques de Poutine. Mais le rapprochement de Trump avec Poutine inquiète beaucoup les Américains. Pardon, je lisais une blague de Jekyll. Ouais. Hein ? Mais le rapprochement de Trump avec Poutine inquiète beaucoup les Américains. Après tout, la Russie était un adversaire historique des États-Unis. Il y a chez les Américains une inquiétude générale concernant l'ordre mondial, avec une peur surtout de la Chine. Mais la peur de perdre en prestige sur la scène internationale est très forte aussi. Certains voient chez Trump un homme fort qui sait s'imposer, tandis qu'une autre partie de l'Amérique pense que Trump précipite des dynamiques internationales les plus funestes. Question : n'y a-t-il pas une contradiction entre le discours isolationniste et l'interventionnisme de Trump depuis qu'il est revenu au pouvoir ? Et la chercheuse répond : avec 8 pays bombardés en moins d'1 an, c'est la première fois qu'un président américain agit de la sorte en si peu de temps. En si peu de temps. Salut Sébastien. T'inquiète, ça va bien se passer. Est-ce incohérent avec le slogan America First ? Oui et non. Et oui et non. Hein. Ça dépend comment on voit les intérêts des États-Unis. Est-ce que America First, c'est ne pas s'occuper de l'étranger ? Première lecture. Ou est-ce que America First, c'est mettre la pression sur l'étranger au bénéfice des États-Unis ? Ah voilà. Tout dépend comment on comprend le America First. La devise de Trump en politique étrangère, c'est la paix par la force. Mais la force des États-Unis n'est pas résumée par l'outil militaire. En écartant toutes les ressources de soft power, sa vision est de plus en plus étroite. Aujourd'hui, le risque pour lui est une myopie qui devient contre-productive à court terme. Tu te répètes sur Libération. L'opération militaire au Venezuela est-elle une autre illustration de la doctrine « la paix par la force » ? Le prétexte invoqué pour capturer Maduro change. S'agit-il de lutter contre le narcotrafic, de libérer le peuple vénézuélien, de capter le pétrole ? Cette intervention est cohérente avec les doctrines Trump récemment publiées, stipulant que les États-Unis peuvent intervenir n'importe où et n'importe quand dans leur hémisphère, ce qui a été publié novembre-décembre aux États-Unis. Alors Trump a agi sans l'approbation du Congrès, qui normalement doit autoriser ce genre d'opération militaire. Quel contre-pouvoir existe encore aux États-Unis ? Comme Trump, les Américains ont une vision négative du Congrès, qu'ils perçoivent comme dysfonctionnelle. Le contre-pouvoir ultime reste le peuple, qui s'exprime dans les urnes et par sa pression sur les élus. Les élections de mi-mandat en novembre permettront peut-être aux démocrates de reprendre la Chambre des représentants, bon ça on verra, et la présidence d'un certain nombre de commissions avec un pouvoir budgétaire important, entre autres. Bon, ça on verra. Dans quelle mesure Trump fait-il avec la capture de Maduro ? Ah ! Alors ça, vous êtes plusieurs à le dire. Diversion de l'affaire Epstein. Est-ce que Trump était lié à Epstein ? Est-ce que Trump aurait... Tout ça. Question. Ah ben, la question est posée à l'experte. Le besoin que la lumière soit faite sur ces affaires de pédocriminalité et la place éventuelle du président dans ce dossier ne s'atténue pas. Mais ce qui se remarque, c'est l'absence d'un projet national de la part de Trump. Après les droits de douane qui n'ont toujours eu aucun effet clair sur la vie des électeurs et le déploiement de la garde nationale dans les villes démocrates qui a été un semi-échec, il ne propose pas d'autres idées ni de nouveaux espoirs. Les interventions étrangères peuvent donner l'impression qu'il a un projet propre à destiner un avenir ambitieux pour le pays, qui a toujours été marqué par une envie de construire, d'avancer et d'innover. Et une dernière question sur les relations internationales, notamment sur l'Europe. Comment cette intervention va-t-elle modifier les rapports des États-Unis avec l'Union européenne et que pourra faire l'Union européenne face à une éventuelle intervention au Groenland ? On assiste médusé à la concrétisation d'un nouvel ordre mondial, chacun dans sa région, ce qui est une fracture inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Européens sont en difficulté parce qu'ils ne peuvent pas s'éloigner du garant de leur sécurité que sont les États-Unis, acteur clé par exemple pour résoudre la crise en Ukraine. Que peut, que veut l'Europe dans un monde où plus de la moitié de la population vit dans les autocraties? Nous sommes une puissance de valeur, mais avons-nous des leviers pour faire face à cette brutalisation? L'Europe a été conçue pour garantir une paix durable. Elle se trouve sidérée par la volte-face récente de son allié principal, États-Unis, crédible et fiable depuis 80 ans. Face à cela, pour le coup, il y a vraiment une nouvelle donne hein, dans les relations entre les États-Unis et l'Europe. Elle doit trouver la réponse à de nombreuses questions, jusqu'ici inimaginables. Donc c'est intéressant parce qu'on reproche beaucoup aux Européens d'être extrêmement tièdes et timides dans leur réaction à Trump. Mais ce que dit cette chercheuse, c'est que le problème, c'est que ces dirigeants européens, ces pays européens se retrouvent face à des questions qui, jusqu'ici, imaginez un président américain qui allait remettre à ce point en cause la relation privilégiée quand même depuis la Seconde Guerre mondiale entre les États-Unis et l'Europe. Ben ils sont un peu désarmés intellectuellement, quoi. La transition, elle est magnifique. Vers le point suivant de cette revue de presse, l'Europe impuissante. Magnifique. Je n'ai pas fait exprès. Hein. Aucun mérite. Merci d'être aussi nombreux ce matin, ça fait plaisir. L'Europe est-elle condamnée à regarder le droit international s'écrouler sous les coups de boutoir de Trump. Alors, l'article, il fait une page, c'est dans la croix, et je vais spoiler la réponse de l'auteur, qui est Jean-Baptiste François, c'est oui, l'Europe est impuissante. Avoir à rappeler ce principe fondamental du droit international dit bien à quel point ce dernier est en danger. Les États-Unis ne doivent pas menacer ou recourir à la force contre l'intégrité politique, pardon, territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État. Déclaration, il y a quelques jours, il y a 2 jours précisément, de la porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. C'est quand même fou. La veille, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait pour débattre de l'opération militaire américaine au Venezuela, Trump s'est dit aux commandes. Après la capture du président Maduro, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, défendait lui aussi cette règle d'or d'indépendance politique des États. Le Venezuela n'est pas le seul territoire soumis aux appétits américains, ça vous le savez. On ne va pas parler du Groenland. On en a déjà parlé assez ce matin. Le problème, c'est que, souligne Guillaume Lasconjarias, directeur des études et de recherche à l'IHEDN, Institut des hautes études de défense nationale. Le problème, c'est que Trump, ce faisant, laisse un accord tacite aux prédateurs de ce monde pour leur dire qu'ils ont raison dans une forme de dérégulation de toute norme internationale. Quand Poutine dit l'Ukraine, c'est à moi, parce que pour X raisons, ou l'Ukraine, c'est la Russie, ou la Russie a intérêt à posséder l'Ukraine. Quand la Chine dit la Taïwan, c'est à moi, pour des raisons historiques, c'est à moi, ou pour des raisons économiques, j'ai intérêt à l'avoir, qu'est-ce que va pouvoir dire Trump quand il dit le Venezuela, c'est à nous, ou le pétrole vénézuélien, c'est à nous, ou le Groenland, c'est à nous? C'est ça la question. C'est ce que dit ce chercheur. Trump laisse un accord tacite aux prédateurs de ce monde pour leur dire qu'ils ont raison dans une forme de dérégulation de toute norme internationale. Le chercheur, qui doute par ailleurs de la capacité de l'Europe à se mobiliser, même si la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni ont apporté mardi leur soutien au Danemark dans une déclaration commune. Le chercheur dit que les Européens ont déjà du mal à parler d'une seule voix sur la gestion d'une question proche telle que l'Ukraine. Il est bien difficile d'imaginer qu'elle puisse le faire ailleurs. La plupart des observateurs déplorent la tyrannie du temps court, encouragée par le caractère impulsif d'un Trump ou d'un Poutine. Macron réagit désormais à très court terme, avec pour horizon les prochaines 24 heures ou la semaine prochaine. Ni la France ni l'Allemagne n'est à la manœuvre pour entraîner les autres en leader européen fort avec une stratégie, déplore Jean-Pierre Molnui, qui est un autre chercheur. Ce dernier regrette la première président, pardon, la première réaction du président Macron, dont on a parlé ici, hein, qui a provoqué beaucoup de réactions, dans laquelle il disait prendre acte de la fin de la dictature Maduro, dont le peuple vénézuélien ne peut que se réjouir, avant de réprouver la méthode employée, mais ça dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps, dans un deuxième, une deuxième prise de parole. Sans doute, on en a parlé ici déjà, l'agenda ne poussait pas à contredire trop fort Trump à quelques jours d'un sommet à Paris sur l'Ukraine. Certains, dans les journaux qu'on a lus ces derniers jours, expliquent la timidité de la réaction européenne au fait que les Européens ont très très peur que s'ils devenaient très critiques, s'ils s'opposaient directement à l'Amérique de Trump, celle-ci lâcherait l'Ukraine. L'UE a encore trop besoin des États-Unis pour se permettre une brouille trop marquée. Les Européens se contentent de positions de principe pour rappeler le droit international. L'inviolabilité des frontières n'est pas négociable, a rappelé Danemark. L'opération militaire au Venezuela va à l'encontre du principe de règlement pacifique, du principe de non-recours à la force, a déclaré Paris. Hein. Mais ces déclarations ne sont que des mots et manquent de traduction concrète. Le levier européen traditionnel, les sanctions économiques, a beaucoup faibli ces dernières années. Les possibilités de contournement de quoi ? Ayant été multipliées, exemple, le pétrole russe vendu en Inde ou en Chine. On en est où ? On en est qu'on a des Européens tétanisés. Ils ont pris la mesure des choses. Hein, il faudrait être idiot pour ne pas comprendre l'humiliation qu'ils leur aient infligée. Mais ça ne veut pas dire qu'ils aient compris ce qu'ils doivent faire. Tétanisés. Hein, estime Federico Santopino, Pinto, pardon, directeur de recherche à l'IRIS. Ils vont d'abord jauger ce qu'ils peuvent obtenir sur l'Ukraine avant de voir s'ils adoptent une attitude plus ferme envers Trump. Pour ce chercheur, il manque une perspective à long terme qui consiste à faire le deuil de la relation avec les États-Unis telle qu'elle existe depuis 80 ans. Est-ce qu'il faut faire le deuil de la relation avec les États-Unis pour les Européens ? Est-ce qu'il faut espérer un changement politique à la tête des États-Unis ? J'ai pas vu le raid, Ariette. J'ai raté un raid. Je le vois pas sur ma petite timeline. Ou est-ce qu'il faut faire le deuil de cette relation ? Pour gagner en crédibilité, les Européens doivent à ses yeux s'équiper de capacités militaires, approfondir l'intégration politique de l'UE, de manière à se doter d'une véritable stratégie extérieure commune. Mais Federico Santopinto doute de la capacité des dirigeants européens continentaux à opérer cette mue dans une époque qui flatte surtout les souverainetés nationales et avec des partis politiques qui sont en train d'accéder au pouvoir en Europe et ailleurs avec un positionnement qui n'est pas supranational mais bien national, pour ne pas employer d'autres termes. Cette situation fait écho à l'Italie de la Renaissance, prospère, dynamique, mais tellement divisée en cité-État qu'elle a fini par se faire dominer par les puissances voisines. Alex Horus, il faut que l'Europe se transforme progressivement en supra-État fédéral pour pouvoir lutter face au monde et redevenir une force majeure dans le monde. Le problème, c'est qu'arrive au pouvoir en Europe de plus en plus des partis qui prônent exactement l'inverse. Un peu de mansuétude pour tempête de bifle sacre. Ne touchez pas à tempête de bifle. Pas de modération, pas de Théo, s'il vous plaît. D'abord, son premier message. Il faut encourager les nouveaux venus. Hein, ouais, son premier. Donc, bienvenue. Voilà. Et surtout, réjouissons-nous de ce pseudo. Peu importe le fait qu'il ait décidé de soutenir les violences contre les femmes. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le propos vise à soutenir les frappeurs de femmes et ton pseudo est tempête de bifle. C'est un lien assez intéressant. Voilà. Donc, on espère que tu élèveras ton niveau sur le deuxième message, bien sûr. Alors, ton deuxième message, idéalement, ne peut pas être un copier-coller de ton premier. Hein. on espère un troisième message qui élèvera le niveau. Je trouve que tu laisses beaucoup de place aux perturbateurs. En fait, ça me détend. Ah, attends, alors le troisième message a été un copier-coller du premier. Ah, ça fait beaucoup quand même. Oh, il a été banni. Oh! Mais pouvons-nous le reprocher à Captain Oui-Oui, qui a été. qui a été très patient. Bon, écoutez, j'ai fait le maximum. Hein. J'ai fait le maximum. Hein. Oh, tant pis. Merci. Merci, Captain Oui-Oui. Merci à Étienne. Hein, il s'est fait rouler dessus. Ah oui, alors, juste pour la personne qui ne peut plus écrire, mais nous entend toujours, Dragon Wild estime que Bifle, c'est pas 2F, notamment. Alors ça, je suis pas un spécialiste du sujet, mais... Ok. Alors, Bifle, ce serait avec un seul F. Bon, je pense pas que le débat soit essentiel, mais... Captain Oui-Oui valide la blague, il s'est fait rouler dessus, il faut avoir la ref, mais... c'est pas mal. Non, c'est bien, moi je trouve que ça crée un peu de divertissement. Alors, attendez, les gars, on est quand même sur des sujets hyper anxiogènes. C'est bien d'avoir de temps en temps un peu de divertissement, moi j'aime bien, moi. Alors, il y a un débat dans le chat sur 1F ou 2F. Je ne sais pas. C'est un peu de divertissement, en vrai. C'est un peu de... Non, alors les modérateurs, ne faites pas un sondage sur la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez que je vous fasse quoi? Une vérification sur Google? Un petit Google Image? Ah donc oui, ça vient de Gifle, donc peut-être qu'un F, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a deux F à Gifle? Bonne question de Sendon. Wikipédia, un F, me dit Marceau. Ok. Voilà. Oui, merci Kefran pour la définition de bifle. Ok, c'est bon. Qui pique un peu les yeux. Alors, Best of Big Mike précise que dans le sud, c'est trois bifles pour se dire bonjour. Je crois que tu veux dire trois bises. Je crois. Alors, il y a quelqu'un qui vient d'écrire dans le chat. J'arrive, je vois que ça débat sur des. Sur des. Sur des. Oui. Ton pseudo, c'est Waouh le God. Hein, donc, s'il te plaît. Donc, s'il te plaît. Hein. Doucement. Hein. Ok. Eh bien, mesdames et messieurs, on va finir sur un autre sujet. Alors, pas ça. Trump, à un moment. Hein. Ok. Et alors, comme ça paraît un petit peu pas forcément foufou. Et moi, j'ai trouvé le sujet mignon. C'est dans Libé. C'est comment les ados français. S'empare de l'IA générationnelle, comme ça qu'on dit, non? Et notamment au chat GPT. Et j'ai trouvé ça assez charmant. Ah oui, générative. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? J'ai dit une connerie. Hein. IA générative. J'ai pas dit générationnelle? C'est à cause des ados, ça. J'ai dit gériatrique? Ah non. Attendez, j'ai dit IA gériatrique? Ah non. Ah non, ne me dites pas ça. Ah non, ne me dites pas ça. Ah, s'il vous plaît, pitié. J'ai dit générationnel. Ouf. Ah ouais, parce que là, ça aurait été très inquiétant. Ok. Alors, c'est mignon, regardez, ça s'appelle la ZEP et la Libération. Mais c'est pas la zone d'éducation prioritaire. En publiant ces témoignages, Libération poursuit son aventure éditoriale avec la zone d'expression prioritaire. Média participatif qui donne à entendre la parole des jeunes dans toute leur diversité, sur tous les sujets qui les concernent. C'est bien ça. Ces récits à découvrir sur zep.media dressent un panorama inédit et bien vivant des jeunesses de France. C'est super intéressant. Voilà. Et donc, c'est pas la première fois que Libé donne la parole à cette zone d'expression prioritaire des jeunes. Hein? Et là, c'est les jeunes qui s'emparent de ChatGPT. Comment ils utilisent, comment à 15-16 ans, il y a un sondage. Oh putain, il y a un sondage. Mais quel rapport avec Buffalo Grill? Ah, je comprends rien. Je suis trop vieux pour vous. Comment les jeunes de 15 ans en France ou de 16 ans s'emparent de ce truc? Et j'ai trouvé ça mignon. Vous allez voir. Aide au devoir, confidence, deuxième cerveau, repoussoir. Si jeunes parisiens, bon là c'est des parisiens, personne n'est parfait, racontent comment l'IA bouleverse ou non leur quotidien. De toute façon, l'IA c'est forcément pour les parisiens parce que, d'après mes informations, il n'y a pas d'électricité dans les autres villes en France. Le courant électrique, c'est réservé à la région parisienne. Je ne dis pas de bêtises. Hein? Oui, Nix, à la campagne, c'est bougie, oui. L'eau courante non plus? Oh là. Je confirme, je pédale pour te répondre. Ben voilà. Ok, oui. Donc, d'où, c'est pour ça que ce sont juste des petits parisiens. Il y a Stubflo qui dit, il y a d'autres villes en France. Enfin, d'autres villes. D'autres villes. Des petits villages, des bourgades. Ville. Voilà. Donc, ok, vous me confirmez cette information. Donc, c'est pour ça qu'on a des petits parisiens. Alors, vous allez voir, les propos sont mignons, en vrai. Voilà. Talel, 16 ans, Paris, chat GPT ou GPT, as you like, est devenu mon esclave. Chat GPT, je lui dis pas bonjour. Vous allez voir, c'est chou comme tout. Chat GPT, je lui dis pas bonjour. Je lui donne des ordres. Quand j'ai une question, je commence par chercher la réponse dans ma tête. Alors, déjà, ça. Ok, GG. Ensuite, je m'adresse à mon entourage. C'est pas mal. En général, mes parents, ma sœur aînée. Mais quand la réponse ne vient pas, je me tourne vers ChatGPT. Et là, je lui parle mal. Jamais de s'il te plaît, jamais de merci. Pourtant, il m'obéit. C'est drôle. Je scanne un document avec des questions. Et quand j'ai l'appareil, je lui dis juste « Fais ça !» Et quand je veux apprendre, je lui dis « Fais ça !» Explique-moi. C'est drôle. Il n'est pas mauvais à l'école, ChatGPT. En quatrième, j'avais une rédaction à écrire sur un livre. Évidemment, je n'avais pas lu un mot. J'ai pris en photo les consignes de la rédaction et je lui ai demandé de me la faire. J'ai juste remplacé les mots trop compliqués par ceux que je ne connaissais pas en cherchant sur Google leurs synonymes. C'est pas mal. J'ai eu un 17 sur 20. Voilà. Et en plus, la prof m'a dit que c'était presque parfait et m'a félicité. Bien sûr, j'ai culpabilisé. Et j'ai trouvé que c'était un comportement honteux. Mais la bonne note et les félicitations m'ont poussé à recommencer. C'est marrant parce qu'on... Il a conscience quand même des limites du truc, quoi. Un 17 sur 20, sans même un « s'il te plaît », sans un « merci », il y avait toute la gloire pour moi. C'est pour ça que ChatGPT est devenu mon esclave. Il fait tout dans l'ombre et moi, je récolte de la fierté. Je trouve qu'il est très drôle. Par contre, ChatGPT, il est pas fort en tout. Autant en français, histoire géo ou SVT, il est boosté. Autant en physique, chimie et maths, il galère de ouf. Du coup, dans ces matières, je suis obligé de m'adresser à mon cerveau. Et avec mon cerveau, je suis bienveillant et je lui dis s'il te plaît. Je pense que le mec a beaucoup d'humour. Kelly, 15 ans. Voilà. Quand je fais du crochet et que j'ai un problème, que je ne sais pas faire telle ou telle maille, je sors mon téléphone, je vais sur YouTube et je cherche une solution à mon problème. Si j'ai un doute sur l'orthographe d'un mot et que j'ai pas envie de chercher mon dictionnaire, je demande mon téléphone. Elle, en fait, elle se sert pas d'IA. Du crochet à 15 ans. Oui, Fear Under, et on ne juge pas. Quand j'ai voulu montrer à mes parents qu'on dit un pétale de fleur et pas une pétale, j'ai cherché sur un dictionnaire en ligne sur mon téléphone. Pour regarder quel grand prix de Formule 1 arrive le week-end suivant ou quel classement général des pilotes, je regarde sur le site F1. Voilà. Mon téléphone est toujours présent pour donner une réponse. Il est comme un assistant pour moi. Un doute sur un mot en anglais, je cherche sur Word référence sur mon téléphone. Une recherche pour un devoir, je vais sur Wikipédia sur mon téléphone. Mais je n'utilise jamais l'IA, dit-elle. Je préfère de loin utiliser des moteurs de recherche car les résultats me proposent plusieurs façons de l'expliquer. C'est comme pour les livres, les moteurs de recherche, c'est la bibliothèque, l'IA, c'est la lecture obligatoire. Moi, je préfère faire le tri, je choisis ce qui me plaît. J'ai l'impression de ne plus faire les choses par moi-même, Google me suffit amplement. Et puis, j'ai l'habitude, et je déteste changer mes habitudes, c'est mignon. Alors, l'idée de passer d'un moteur de recherche à l'IA ne m'a jamais traversé l'esprit. Certains pourraient penser que je suis old school parce que je préfère la qualité vintage d'un moteur de recherche à l'IA. Voilà. Moi, je pense surtout qu'on ne change pas une équipe qui caille. Je trouve ça assez mignon. Tasnim, 15 ans. J'ai une utilisation très régulière, au contraire, de ChatGPT pratiquement tous les jours. Je m'en sers pour chaque devoir, chaque contrôle. Je préfère l'utiliser que de demander à ma famille ou mes amis. Je ne veux pas les déranger. Alors que demander à ChatGPT, c'est plus simple. À l'école, ils m'aident pour les devoirs et les révisions. Ses réponses sont claires, nettes, simples, détaillées. Ils m'expliquent jusqu'à ce que je comprenne avec des petits exercices, des résumés. Ils m'aident aussi à rédiger les textes. Ils corrigent les fautes d'orthographe. Ils reformulent les phrases. Dans la vie quotidienne, quand on me parle de quelque chose ou d'un mot que je ne comprends pas, j'ai le réflexe de demander à ChatGPT de m'expliquer. Voilà. Une fois, on m'a dit que j'étais narcissique. Pour être sûr de savoir ce que ça voulait dire, j'ai demandé la définition à ChatGPT. ChatGPT, c'est aussi mon conseiller religieux. Alors c'est un peu plus étrange. Une fois, je lui ai posé une question sur ma religion. Et je lui ai demandé, si tu étais humain, quelle religion te semblerait la plus juste et le chemin de la vérité? Et là, il m'a répondu l'islam, qui était la religion du jeune homme. On sait que les IA génératives, c'est ça? En général, elles vont pas te contredire, quoi. Elles vont dans ton sens, quoi. C'est l'un des soucis, quoi. Tasnim, c'est une fille, pardon? C'est un nom féminin, autant pour moi, je m'excuse. Et là, il m'a pondu l'islam. Voilà, il se base sur l'historique. Ah, c'est féminin ? C'est très joli, pardon. Je ne connaissais pas le prénom. Maintenant, à chaque question que je lui pose, il me fait un petit rappel religieux à chaque fin de réponse qu'il me donne. Je trouve ça agréable.
Waouh.
Au moins de petits soucis, je lui demande et il s'exécute. Au final, je pourrais même dire que ChatGPT est mon deuxième cerveau. Le biais de confirmation, voilà. C'est ça, c'est le biais de confirmation. Moi, mon GPT m'a dit que c'était le réalisme, dit Wallart. Eh oui. C'est un peu bizarre. Maïmouna, 15 ans. J'ai commencé à utiliser l'IA avec My AI sur Snapchat. Au début, je l'employais que dans le but de me divertir. Je me demandais, ça va, juste pour tester. J'essayais de le faire se contredire. Piéger une IA me semblait un jeu amusant. Quand les cours ont repris, j'ai commencé à l'utiliser plus fréquemment. J'avais besoin d'obtenir des bonnes notes pour mon bulletin. J'ai commencé à retravailler mes cours avec une assistance ChatGPT. Je lui demandais souvent de l'aide. Il a ainsi peu à peu pris le rôle de professeur particulier, puis de cuisinier, styliste, assistant, écrivain et tant d'autres. Je sais que les informations que me partage GPT sont pas toujours véridiques. Merci Marvin. Mais je continue de lui demander des renseignements. Il remplace les moteurs de recherche et ne s'oppose jamais à moi. Il pourrait m'assurer que la Terre est plate si j'orientais ma question dans ce sens. C'est intéressant parce qu'on parle quand même de jeunes gens et ils sont pas dupes quand même. Hein. ChatGPT, c'est parfait pour les cours parce qu'à l'école, avoir des bonnes notes est plus important que le fait de comprendre réellement. Eh. Alors même si je néglige mes révisions, l'IA m'aide à faire des synthèses rapides. Sur le long terme, elles ne me servent à rien, mais pour une évaluation, elles me permettent de réussir. Je trouve ça très intéressant parce que ces jeunes gens sont très lucides. La phrase « sur le long terme, elles ne me servent à rien, mais pour une évaluation, elles me permettent de réussir » est quand même très intéressante. Ou du moins de ne pas échouer. Ça fait maintenant 2 ans que j'utilise fréquemment l'IA pour tout et rien. Malgré tout, je m'efforce de garder une distance avec les robots. Ils ne savent pas de détails personnels sur moi, physique ou mentaux à mon sujet, parce qu'il me semble évident qu'on ne peut pas donner sa confiance à un robot. 15 ans, hein ? Moi, je trouve ça très intéressant. J'ai remarqué que l'IA essayait souvent de briser cette distance en employant des mots aimables et des émojis. C'est un parasite indésirable qui essaie de s'immiscer dans ma vie alors que je ne veux pas de lui. Je ne veux pas faire de l'IA l'une de mes amies parce que malgré tout, un ami qui n'est jamais honnête avec moi et semble toujours en accord avec mes pensées est inutile. Ces robots sont mes associés plus que mes confidents. Je ne veux pas qu'ils aient accès à mes émotions. Je trouve que c'est une maturité assez fascinante. Hugo, 15 ans. En troisième, j'avais pas trop envie de travailler.
Ça arrive.
Alors, moi, je faisais du bicross, moi, en troisième. J'avais un bicross rouge. Un raleigh. Je faisais des roues arrière dans des terrains vagues.
En troisième, j'avais pas trop envie de travailler. Alors, ChatGPT et moi, on est devenus potes. À force de l'utiliser bicross BMX, pardon. Pour les plus anciens. Alors pour mon année de troisième, je suis devenu un expert. ChatGPT, ce n'est pas une simple encyclopédie numérique, c'est un outil conversationnel, il s'adapte à la manière dont je lui parle. L'année dernière, j'avais réussi à connaître en avance les questions de notre contrôle de lecture en français. C'était des questions de réflexion, pas juste sur le livre. Un ami les a bêtement glissées dans ChatGPT et a recopié les réponses pendant le contrôle. Verdict sans appel, 8 sur 20. Bim ! Bim ! Voilà. Les réponses étaient trop évasives, il y avait trop d'erreurs dans le résumé du livre. ChatGPT, 8 sur 20 ! Voilà. il y avait trop d'erreurs. Il ne développe pas, à part les grands classiques, il ne connaît pas la littérature moderne. La plupart des adultes pensent qu'il suffit de poser une question à ChatGPT pour qu'il nous réponde de manière juste ou qu'il peut nous éclairer dans n'importe quel domaine. Mais ils ont faux, dit ce jeune homme. Il faut formuler une demande claire, nuancée, contextualisée. Par exemple, au lieu de dire « écris-moi un texte sur l'amour », il vaut mieux préciser le ton, le style ou même le public visé. C'est pour Charlotte, qui est en troisième 2. Ensuite, il faut comprendre que ChatGPT s'appuie sur le langage humain et non sur les vérités absolues. Il n'a pas d'opinion propre ni de conscience, il reproduit, reformule des savoirs, des idées, des styles. En fait, il est un peu idiot. Je me souviens que l'année dernière, les camarades de classe m'avaient donné les questions d'un contrôle de musique. Une question portait sur les instruments entendus dans la 7e symphonie de Shostakovich. Je me suis bien évidemment précipité vers ChatGPT pour lui poser. Au bout de quelques questions, je me suis rendu compte que ChatGPT ne me répondait jamais non. J'ai donc essayé de tester ses capacités. Hein ? Il m'a sorti des instruments qui ne peuvent absolument pas apparaître dans une symphonie à l'époque, etc., etc. Il faut toujours garder un esprit critique face à ses réponses, vérifier, recouper, questionner. Ce que j'aime, c'est que quand je deviens le chef d'orchestre, celui qui guide l'IA et la pousse à donner le meilleur d'elle-même, tout en gardant le contrôle de ce qui est produit. C'est incroyable. D'ailleurs, plus on l'utilise, plus on découvre ses subtilités, la façon dont elle comprend les consignes, son sens du ton, sa capacité à imiter ou à inventer. C'est un dialogue, une danse entre l'humain et la machine. Mais ils n'ont pas 15 ans, ces gens-là. Les gars, hey, le gamin, il a 15 ans, il dit c'est un dialogue entre une danse entre l'humain et la machine. Ils n'ont pas 15 ans, ces gens-là. Moi, à 15 ans, je faisais du BMX. C'est ouf. Hugo Décrypte, on t'a grillé. Moi, à 15 ans, je jouais avec mon caca d'Hydraculos. Non, à 15 ans, non. Le stade anal, c'est beaucoup plus tôt que ça, hein. Bah après, je sais pas, moi je crois à la démarche journalistique là. C'est. Ouais, je sais pas. Il y a un lac qui dit c'est reformulé sans doute par le journaliste, mais sur le fond, moi je retrouve beaucoup de mes élèves. C'est intéressant. J'en ai même qui utilisent l'IA pour faire des études de marché en troisième et revendre des trucs sur Vinted. Waouh! C'est très intéressant. En fait, on est un peu jaloux. Parce que ça va plus vite dans la tête des gamins de 15 ans qu'à notre époque. Moi, à mon époque, à 15 ans, je faisais comme ça un peu beaucoup, quoi. Alors, c'est, je crois qu'on est peut-être un peu jaloux, en vrai. Là, il y a un enseignant qui dit « Non, non, ils sont pas très loin des gamins que j'ai dans ma classe, quoi. » Ok. Waouh. Allez, un dernier. Joneba, 15 ans. Voilà. ChatGPT, c'est un peu comme un prof et un conseiller en même temps. Il m'explique que sans se moquer, même si c'est très simple au collège, quand je ne comprenais pas une question ou un exercice, je me refermais sur moi-même au lieu de demander au prof. Je restais seul avec mes difficultés par peur qu'on se moque de moi. C'est vachement intéressant. À cause de cela, j'ai eu beaucoup de difficultés durant l'année, donc elle parle du collège, des mauvaises notes, je me suis dit que si je continuais comme ça, je n'aurais pas mon brevet. Je me suis mis à réviser. Et à défaut de poser des questions au prof, puisque cet élève n'osait pas, je l'ai posé à ChatGPT. En maths, je ne comprenais pas les fonctions, par exemple. J'aurais rien compris, moi. Il m'a expliqué que j'ai eu une bonne note. C'est en partie grâce à lui que j'ai eu mon brevet. Ce que j'aime bien, c'est que je peux lui parler de tout, même de choses personnelles. Il répond toujours à la seconde sans me juger. Je lui ai expliqué que je m'étais disputé avec ma mère. Il m'a dit que de lui raconter un petit peu ce qu'elle avait dit et ce que je ressentais. Quelquefois, il peut être très naïf. Par exemple, quand je m'embrouille avec une personne et que je sais que j'ai tort, il me dit toujours que ce n'est pas moi le problème. Ils sont pas cons, les gosses. Et Jugador dit « Je doute pas que les réponses ont été retravaillées, mais le fond de la pensée de ces gamins est hyper intéressante. » Si je lui dis quelque chose de faux, il va pas forcément me contredire. Limite, si je lui disais que j'ai tué quelqu'un, il me dirait que j'ai raison. Qu'on lui dise quelque chose de vrai ou de faux, il va toujours aller dans notre sens. Une fois, je lui ai posé la question « Combien fait 5 plus 5 ?» Il m'a dit 10. Je lui ai dit « Non, ça fait 11. » Il m'a cru. C'est fou, il manque vraiment d'esprit critique. Je lui parle tout le temps, il ne me met jamais de remis. Remis, c'est quoi? Il répond toujours immédiatement, d'accord. Le seul problème, c'est que si je lui parle trop longtemps, il s'arrête et je dois attendre 24 heures. Alors j'ai créé plusieurs comptes. Même parce qu'elle n'a pas pris l'abonnement, je pense. J'arrive à le tromper assez facilement juste en créant d'autres comptes. Remis sans famille. Joli. Finalement, les êtres humains restent beaucoup plus malins et peut-être plus intelligents que l'IA. C'est, moi, vous savez quoi? Je trouve ça mimi comme tout. Moi, je... Vitalis. Moi, je trouve ça mimi comme tout. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu trop bien écrit. Peut-être que ça a été un petit peu réécrit par les journalistes, mais bon. C'était pas mal, en vrai. Hein, mais moi, à 15 ans, j'étais pas comme ça. Hein. Quoique, je commençais un petit peu à lire, un petit peu. Mais je crois que mon cerveau n'était pas allumé comme celui de ces gamins, quoi. Tes enfants pensent quoi de l'IA, Samuel? Ils ont 9 et 5 ans. Est-ce qu'ils servent de l'IA? Mon épouse Hélène, dans le cadre de son boulot, pour écrire des trucs, elle se sert de ça. Les enfants, non. Hein. Ils n'ont pas vraiment accès à Internet, les enfants. Hein. Un peu genre YouTube Kid, tu vois, Max. Tu vois. Ils ont le temps, hein. Ils ont le temps, hein. Non, ils n'ont pas accès à Internet. On surveille vachement, hein. Faut hyper attention. Hein. Un enfant de cet âge-là, ça reste pas tout seul devant une tablette, devant un ordinateur. Hein. L'article stage est dans Libération aujourd'hui, pages 18 et 19. Regarde. Libé. Merci Célénia. Ah, merci. Vous voyez, hein, ce qui est fou ici, c'est l'addition des cerveaux. Là, on a un témoignage hyper intéressant de 6 Molaner. Ma sœur est institutrice et a déjà participé avec ses élèves à ce genre d'exercice. On trouvait ça quand même très bien écrit. Les textes sont écrits conjointement, élèves avec les journalistes. C'est ce qui rend l'exercice super intéressant. Ok, ok. Merci Cabier. C'est incroyable, hein. 47 mois de soutien consécutif. Voilà. Draculos. Oui, je confirme, à 11 ans, j'ai vu des trucs pas ouf autrefois sur l'ordi. Aucun contrôle. Maintenant, je surveille à fond. Ouais, tu laisses pas des enfants en bas âge, même des enfants, tu laisses pas les enfants devant un téléphone, une tablette, un ordinateur sans contrôle, quoi. Ouais. Dans mon boulot, je dois lire énormément de documents et seulement 10 à 20% du contenu me sert vraiment, alors on passe doucement à l'IA pour ce genre de taf de lecture synthèse qui n'a pas vraiment de valeur ajoutée, me dit Sassou. KCIG, ma mère notaire, a pris un abonnement IA dans le cadre de son métier. Je trouve que dans un contexte précis et avec une base de données spécialisée, c'est très pertinent. Moi, j'aimerais bien être à la page et me servir d'IA générative, là. Mais je ne sais pas pourquoi faire. Moi, j'aurais bien être moderne, à la page. Je ne sais pas quoi faire, moi, avec. Un outil, c'est intéressant si t'as une idée de ce que tu veux faire avec. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, avec une IA? C'est pour l'IA qui va remplacer le glow surréaliste du streamer. Ah, Camille, bienvenue au club. Sam, je me pose la question. Demande-lui de te suggérer une revue de presse. Sûrement pas. Alors là, je peux te dire que c'est... Non, ça vient de s'asseoir de ma tête, ça. Affiche, non. Les visuels, moi, je veux que ce soit fait par une graphiste humaine. Non. Mieux jouer à Valorant. Ah ouais, ça j'aimerais bien ça par contre. Merci Stoplo. Tu peux lui demander de parler avec un accent du sud. Trouver les articles positifs. Mais je cherche, hein. J'ai pas trouvé pour l'instant. Demande-lui de l'aide pour lui demander sur quelle aide il peut t'apporter.
Ok.
Assistant d'écriture. Oh, j'écris rien, moi. T'apprendre les flip reset sur Rocket League. Ok. Bon, bah, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Les amis, ciao! Je vous laisse. Je vous laisse parce que je vais à un tournage cet après-midi. Petit tournage, vite fait, là. Vers 16-17h. Mais il faut que je me prépare un petit peu. J'ai un petit texte à apprendre par cœur. Il faut que je me fasse beau. Il faut que je repasse un t-shirt. Que je trouve une veste pas trop dégueulasse avec pas trop de taches dessus. Même peut-être une petite sieste-toune. hein, pour être en forme, parce que pour que les gens qui participent à ce tournage soient pas trop déçus. Un peu de crème quantique de Guerlain, exactement. Et hop. Merci pour ce matin, c'était un plaisir de vous avoir. Voilà, j'aime les échanges qu'on a ensemble sur l'actualité. Voilà. Sinon, je reviendrai pas chaque matin comme ça depuis 5 ans. Merci à ceux qui nous suivent en live sur Twitch le matin. Merci à ceux qui nous écoutent en replay, nous regardent en replay sur Twitch et YouTube. Merci, et vraiment du fond du cœur, à ceux qui nous consomment en podcast tous les jours à partir de 15-16 heures. La revue de presse du matin est postée en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables. Voilà, et vous êtes super nombreux à écouter cette revue de presse depuis septembre et je n'en reviens pas. De ouf. Voilà. Donc je vais et c'est Vincent qui s'en occupe, Vincent que je salue. On se retrouve, alors on a streamé hier soir, on a fait du God of War. Peut-être un petit stream de gaming ce soir. Peut-être du Valo. Mais il y a le nouveau gun là. Comment il s'appelle? Bandit. D'ailleurs, on va le prononcer à la française ou à l'anglaise, le Bandit. Salut Guzard. Merci ton message. Ouais, petit Skyrim aussi. Ouais, nouvelle saison de Valo, ouais. Non, Skyrim, c'est pas fini, ça va reprendre. Bandit ou Bandit? Je sais pas, on verra ce soir. On va faire un live. Un raid. Qui est en live? On dit Bandit? On dit Bandit? Oh putain, je suis tellement de chaîne, je suis trop de chaîne. On dit Bandini. Oh, c'est trop mignon. Ah. Ouais. Vous voulez qu'on raide qui? Moi, il y a une amie que j'aime beaucoup, c'est Midori, mais je la vois plus. Je vois qu'elle stream plus trop en ce moment. Je suis en train de voir des choses dans le chat. Je ne vous cache pas que je suis en train de voir des choses dans le chat. Je suis en train de lire vos propals en fait. Fais voir, je ne connais pas ça. Vous êtes plusieurs à me parler d'un truc que je connais pas. C'est quoi? Ok. Kenny, il est en live? Oh, oh, oh! Attends, ça me plaît, ça. Attends. C'est quoi? Ça a l'air bien, ça. Allez! Eh, je vous emmène à Taïwan. Nicolas vient d'écrire dans le chat. Django _ M. Couple de Français expatriés à Taïwan. Stream IRL. Oh oh! Django! Pas Django Reinhardt. Hein. Ça a l'air trop bien. Alors, je connais pas moi cette chaîne. Let's go. Django. Direction Taïwan. Je vois Canton là. On n'est pas à Taïwan. Canton, balade à Guangzhou. Je vois Canton là. Bon, enfin bon, on y va. Let's go. Les amis, des bisous. Je vous dis sans doute à ce soir. Là, je crois qu'on va à Canton là. Go. Merci pour ce matin. Ciao. Ça, pardon. 5, 4, merci Catherine Mouy. 3, 2, 1. Vamos!